Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Questions et réponses sur les sceaux » prêché le 24 mars 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Oui, je te le dis, mets un garde sur ton cœur en ce jour. Sonde ton cœur, ô homme, et laisse aussi ton Créateur sonder tes pensées. En ce jour, je vais te révéler les choses auxquelles tu n'as même jamais rêvé. Sonde ton cœur et prépare ta lampe. Et assure-toi d'avoir de l'huile dans ta lampe. Pour celui qui n'a pas d'huile, ce ne sera pas en vain. Car je veux dire, je te donne et je sais l'opportunité que tu as de pouvoir remplir d'huile ta lampe. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants de ce moment où nous pouvons de nouveau communier autour de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants de ce être avec nous ce matin pour nous aider et pour nous bénir. Nous demandons le pardon de nos péchés afin que nos lampes puissent être remplies d'huile, mouchées et lumineuses, et que tu nous utilises maintenant pour honorer ton grand nom. Car nous le demandons au nom du bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'arrivais au moment où j'ai entendu prononcer ce message. Alors, il est vrai que nous devons garder nos lampes remplies. Garder, vous savez, quand à mesure que vous brûlez, vous ne pouvez pas vous reposer sur ce que vous avez déjà fait, là. Vous voyez? C'est que le feu, quand l'huile brûle, il se fait un dépôt de charbon. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut moucher, là, que vous devez moucher vos lampes à cause du charbon sur le bout de la mèche. Beaucoup d'entre vous qui avaient à peu près mon âge autrefois, quand on utilisait la lampe au kérosène, voyez-vous, il se faisait un dépôt de charbon sur le bout où ça brûlait et elle éclairait moins bien à cause de ça. Donc, tout ce qui est charbonneux, il faut toujours le couper pour que nous puissions continuer à courir vers le but de la vocation céleste en Christ. Maintenant, c'est une très belle matinée à l'extérieur comme à l'intérieur, alors que la saison de Pâques est proche. Et nous en arrivons maintenant au dernier sceau ce soir, si le Seigneur le veut. Et c'est un sceau très mystérieux, très, très, parce qu'il n'est même pas, mentionné nulle part dans les Écritures. Il n'y a aucun symbole, rien sur quoi s'appuyer. Il faudra que ça vienne directement du ciel. Et c'est un peu une heure de tension pour moi. Ça a été comme ça toute la semaine. C'est maintenant, ce sera le 8e jour que je passe dans une pièce. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup là, beaucoup de demandes Alors, j'ai dû faire un genre de tri. Beaucoup voulaient avoir des entretiens et j'aime ça. J'aimerais en accorder maintenant, mais vous voyez, mais je ne peux pas en ce moment. C'est que vous comprenez, en ce moment, nous concentrons tous nos efforts à découvrir la révélation de la volonté du Seigneur, vous voyez. Alors, quand on a des entretiens, alors ça vous entraîne dans une autre direction, c'est autre chose, vous voyez. Et puis, comme de prier pour les malades, c'est complètement différent. Ce sont des visions et tout. On étudie d'une façon différente et on est loin d'une façon différente. C'est précisément comme la Bible a dit à un arbre qui est planté près des courants d'eau. Des courants d'eau, vous voyez, la même eau, mais il y a une sortie qui arrive de ce côté-ci, une de ce côté-ci, une de ce côté-ci. Ça dépend de la sortie. C'est le même esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 12, il a fait la même chose. Il a parlé de ce qu'il y a beaucoup de dons. Mais c'est le même esprit. Alors, vous voyez, si vous œuvrez, disons, dans une direction et qu'ensuite, il faut changer pour en venir à autre chose ici, vous savez ce que je veux dire? Vous étudiez dans cet ordre d'idée-là, vous amenez les gens, et maintenant, ils ont appliqué tout leur cœur. Que ce sont ces sauts, leur attention, qu'en est-il? Soir après soir, quand j'arrive, l'attention est tellement grande ici que je dois parler d'autre chose, simplement pour ramener un peu le calme, vous voyez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre le sceau. Et puis tous les soirs, je dois faire comme ça. Alors, de passer de cela à la guérison ou quelque chose, vous voyez, les gens sont complètement concentrés sur une chose. On peut difficilement passer à autre chose tout de suite. Et puis aussi de savoir qu'au milieu de vous, des choses sont en train d'arriver, vous voyez, dont je sais que vous ne le voyez pas, voyez-vous? Je suis absolument sûr que vous ne le voyez pas, voyez-vous? Et vous dites, Frère Branham, c'est dur à entendre ce que vous dites là. Je sais, mais regardez, maintenant, permettez que je dise simplement ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous et tout, mais permettez que je le dise, voyez-vous? Vous ne saisissez pas, voyez, et vous n'êtes pas censé saisir. Alors, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit, voyez. Ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation. Vous ne feriez que vous éloigner encore plus. Suivez donc mon conseil, si vous me croyez, là. Si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux, et vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis avec vous, voyez, elles ont toujours été justes. Et maintenant, pour le prouver doublement, qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole. Vous voyez, donc, vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur, c'est exact. Vous voyez, vous en avez la preuve. Alors, suivez mon conseil à moi, votre frère. N'ajoutez pas votre propre interprétation à quoi que ce soit. Continuez simplement à vivre une bonne vie chrétienne. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose. En faisant ça, vous voyez, vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. Et vous en êtes tous conscients, et vous savez que quelque chose de mystérieux est en train d'arriver. Et c'est effectivement en train d'arriver. Et je sais que ce que c'est. Je ne dis pas ça à la légère. C'est la grâce de Dieu qui me permet de savoir ce que c'est. C'est quelque chose de prodigieux. C'est parti maintenant. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le voir. Et c'est je vous le certifie avec cette Bible dans ma main. Je sais ce que c'est. Cela vous a été déjà dit auparavant. Donc, ne cherchez surtout pas à ajouter la moindre interprétation, mais croyez-moi seulement. Moi, votre frère, nous vivons à une heure très importante. Nous vivons à un temps où bien, et nous, alors, soyez très humble, c'est tout. Soyez chrétien et forcez-vous de vivre pour Dieu et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire. Voyez, sinon, tout ce que vous feriez, c'est d'en faire quelque chose de mystérieux et vous gâcheriez le vrai plan de Dieu, voyez. Hier après-midi, il s'est passé quelque chose dans mon bureau dont je ne pourrai jamais me détacher, vous voyez. Alors, vous... Il y a environ 2 semaines, il s'est passé quelque chose qui ne pourra jamais, tant que je vivrai sur cette terre, je ne pourrai jamais m'en détacher, vous voyez. Et donc, et là, l'Église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses, alors n'ajustez aucune interprétation à quoi que ce soit, vous voyez. Continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne, allez à votre église, soyez une vraie lumière partout où vous êtes et brûlez simplement pour Christ et dites aux gens combien vous l'aimez et que votre témoignage se fasse dans l'amour toujours devant les gens. Voyez? Parce que sinon, vous vous trouverez empêtré dans quelque chose là et alors vous seriez hors du sentier battu. Vous voyez, chaque fois que vous avez cherché à faire ça, c'est ce que vous avez fait, voyez. Alors simplement, ne cherchez pas à donner la moindre interprétation, et en particulier ce soir, quand ce saut vous sera présenté, voyez-vous. Ne cherchez surtout pas à l'interpréter, continuez votre chemin, et soyez humble, et continuez à avancer avec le même message tout simple. Maintenant, vous dites, Frère Branham, est-ce que ça, nous qui sommes l'Église du Dieu vivant, est-ce que nous le devrions pas? Eh bien, comme j'essayais, regardez bien. Je voudrais dire, vous dites, mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas? Je devrais avoir. Non, non. Mais souvenez-vous, je l'ai dit pour votre bien. Vous voyez, je l'ai dit pour que vous compreniez. Si vous me croyez, maintenant écoutez ce que je vous dis. Vous voyez, voyez. Tenez ici. Voici un poste. Et c'est. Nous allons l'appeler un poste d'écoute, vous voyez. Il y a à l'intérieur la radio, vous voyez. Il y a des mises en garde et tout qui peuvent se faire. Comme une épée dans votre main, vous voyez. Il peut capter le mal ou capter seulement. C'est lui qui reçoit son message, vous voyez. Bon, mais maintenant, pour ce qui est de l'homme ordinaire, par exemple, il y a eu tant de sectes et de clans qui sont apparus suite à des petites effusions de l'esprit, si bien que les gens, dans leur emballement, se laissent entraîner dans toutes sortes de choses, et alors ils commencent un autre petit mouvement. Et vous savez, et tout, vous voyez, vous ne devriez surtout pas faire ça, vous voyez. Maintenant, souvenez-vous, en restez simplement comme vous êtes, et vous êtes, eh bien, le Seigneur m'a moi. Non, faites bien attention, là, voyez-vous. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose, vous voyez. Saviez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle en ce moment, même? Des vraies voix de personnes qui sont portées par les ondes électroniques de la radio. Pourquoi ne les entendez-vous pas? Ce sont des voix. Pas vrai? Les ondes traversent cette salle en ce moment même. Il y a des formes humaines, des corps, qui se déplace dans cette salle en ce moment même, pas vrai? Mais alors, pourquoi ne les voyez-vous pas? Vous voyez? Elles sont ici, des vraies voix, comme ma voix à moi. Mais alors, pourquoi ne les entendez-vous pas? Vous voyez? Il faut d'abord qu'il y ait contact avec quelque chose pour qu'elles se révèlent. Vous voyez? Maintenant, vous comprenez. Alors, surtout, n'interprétez rien. Si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. Vous voyez? Alors, soyez vraiment, vraiment ferme, là. Ne bronchez pas. Il s'est passé quelque chose. Et donc, soyez vraiment... Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et soyez... Ne cherchez pas à vous faire remarquer pour montrer que vous êtes chrétien, parce que vous ne feriez que vous éloigner de Dieu. Et vous, si vous pouvez le comprendre, c'est ce troisième poule. Voyez? Vous auriez dû saisir ça cela, l'autre jour, vous voyez? Alors donc, souvenez-vous-en, il n'y aura aucune imitation comme il y en a eu pour les deux autres, voyez? Alors, c'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. Souvenez-vous simplement que, alors voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Il y a quelque chose ici. Il y a vraiment dans cette salle des anges, la voix de Dieu, voyez? Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas entendre la voix naturelle sans qu'il y ait quelque chose pour la diffuser, comment allez-vous faire pour entendre la voix spirituelle? Oh, vous pourriez faire semblant que quelqu'un est en train de chanter tel chant, il se pourrait qu'il soit même pas là, voyez? Mais quand il y a contact avec le récepteur voulu, alors cela va produire une interprétation véritable et montrer, confirmer la chose en montrant l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'Esprit de Dieu, quand il parle par le moyen de la vraie parole, il se confirme de lui-même pour montrer lui-même que c'est juste. Vous comprenez maintenant? Maintenant, prions de nouveau. Père Céleste, nous sommes sur le point d'ouvrir ce livre, et c'est la partie physique, d'essayer de redonner ce que tu nous as dévoilé dans la dimension spirituelle. Et maintenant, je te prie, ô Dieu, de m'aider à donner l'interprétation juste à ces questions, qu'il puisse être dit qu'elles sont là pour aider les gens. Elles sont là pour leur donner de bien comprendre. Et je te prie de me donner de bien comprendre pour que je puisse diffuser cela à ton peuple, afin qu'eux puissent bien comprendre et qu'ensemble nous puissions vivre pour la gloire et l'honneur de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je voulais simplement dire ça. Et je pensais que ceci, c'était ce qui commandait l'enregistrement, mais ce n'est pas le cas, vous voyez. Et c'est une lampe de bureau. Et je pensais avant, les commandes pour l'enregistrement étaient ici, mais on m'a dit que je n'ai qu'à faire signe aux frères dans la pièce là-bas, la pièce où on enregistre, et comme ça, ils sauraient quand il faut arrêter l'enregistrement et quand il ne faut pas. Vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial partout. Vous voyez, partout. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Alors, il y a des choses que nous dirions ici que nous ne dirions pas ailleurs. Vous voyez, et c'est pour ça que nous arrêtons l'enregistrement. Maintenant, répondre à des questions, c'est toute une affaire. Alors, maintenant, en y répondant la plupart des questions, à part maintenant chacune, quelques-unes ne s'apportent même pas au message du tout, mais je vais au saut du tout, mais je vais essayer d'y répondre. Et on me les a remises et on m'a dit que la plupart d'entre elles, ou bon nombre d'entre elles, c'était des demandes de prière. Et pour ceux qui sont malades et affligés, et différentes choses comme ça, ainsi de suite. Et donc, ça n'était pas du tout quelque chose comme une question à laquelle il faut répondre. Et puis, on m'a remis un paquet qui se rapportait à différentes choses, à l'écriture et tout, mais peut-être que si nous avons le temps, nous essaierons d'y répondre de notre mieux. Maintenant, si je fais une erreur, eh bien, souvenez-vous, ce n'est pas une erreur intentionnelle. Alors, est-ce que tout le monde se sent bien? Amen. N'est-ce pas que c'est? Vous parlez de lieu céleste en Jésus-Christ. Quel lieu merveilleux! Quel moment merveilleux! De toutes les fois où j'ai été derrière la chair au tabernacle, je n'ai jamais, 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 à aucun moment de mon ministère, œuvré dans les sphères de Dieu et dans les sphères spirituelles comme je l'ai fait cette fois-ci. Cela dépasse tout ce que j'ai déjà fait, comme ceci, à n'importe quel moment de mon ministère, à n'importe quelle réunion, n'importe où. Le plus souvent, il est question de la guérison ici, il est question de révéler les vérités par le même esprit. Et je me suis complètement isolé, je suis en pension quelque part, ou je vais manger quelque part, et je suis resté tout seul, alors ça a vraiment été un moment glorieux. Maintenant, tout de suite, soit demain matin ou le lendemain matin. Probablement que si nous pouvons terminer à temps, je vais prier pour les malades ce matin, si on ne prend pas trop de temps pour les questions. Alors, je dois absolument prendre un moyen pour me retrouver, vous voyez. Il y a des limites à ce que l'esprit humain peut supporter, vous voyez. Et quand vous en arrivez au point où vous restez assis pendant une heure, paralysé par la présence de Dieu et une colonne de lumière suspendue là devant vous, vous ne pouvez pas rester comme ça très longtemps, vous voyez. L'être humain ne peut pas tenir le coup. Et maintenant, ce sont de très bonnes questions. J'apprécie de voir la sagesse et tout dont les gens font preuve. Maintenant, la première, je vais essayer d'y répondre. Et si je ne le fais pas comme il faut, eh bien, alors, pardonnez-moi. Et si l'interprétation que vous en avez est différente et que vous croyez que votre idée est juste, eh bien, allez-y. Et il n'y aura pas de mal à ça, vu qu'il n'y en a que nous deux, pas plus, qui ont rapport au salut. C'est seulement la plupart des questions qui sont posées, ce sont des choses qui se passent de l'autre côté de l'enlèvement de l'Église. Alors, vous voyez, ce sont des questions, des choses qui vont venir et qui vont s'accomplir plus tard, à d'autres moments. En effet, l'âge de l'Église est déjà terminé, là, où nous en sommes maintenant dans nos enseignements du livre. Nous sommes de l'autre côté au temps de l'appel des 144 000. Maintenant, la première ici, les cinq vierges sages de Matthieu 25, sont-elles au service de l'épouse ou bien si elles sont l'épouse? Voyez, si ces vierges sages sont au service de l'épouse, où est l'épouse? Voyez, bon, comme je le comprends, ces cinq vierges, elles étaient 10, vous savez, qui sont sorties, voyez. Et ceci, c'est seulement un symbole ou une parabole, voyez, dont je vais vous parler. Vous voyez, elles étaient 10. Évidemment, elles étaient plus que 10. Ça, c'est juste le chiffre qui a été donné. Mais alors, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Celles qui n'étaient pas sages n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Donc, si c'est 10-là dans Matthieu, c'est la question de cette personne, si c'est 10-là, est-ce que ça voulait dire que ce serait, ou c'est 5 plutôt, que ce serait seulement 5, vous voyez, seulement 5 personnes? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est seulement un symbole des vierges, vous voyez, des vierges qui sont sorties avec de l'huile dans leur lampe. Elles sont une partie de cette épouse. Et comme je le comprends, et aussi vous remarquerez là que c'était des vierges de la dernière veille, Les veilles s'étaient succédées, il y avait eu 7 veilles, et à la 7e veille, à minuit, c'est là que nous en sommes maintenant, voyez-vous. Donc, à cette veille de minuit, les vierges se sont réveillées et ont préparé leurs lampes, et elles sont entrées pendant que la Vierge endormit. Maintenant, la partie ici des 5, si c'est bien le sens de la question à savoir, y en avait-il seulement 5? Nous avons beaucoup de questions là au sujet des 7000 et tout. Or, ça, c'était juste un symbole, une partie d'entre elles. Et toutes celles qui se sont réveillées dans ce dernier âge, ici, la 7e veille, s'il n'y a eu que 5 qui se sont réveillées à ce moment-là, qui ont été enlevées, qui sont entrées avec l'épouse et tout, avec l'époux. Donc, si elles-mêmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 5. En effet, elles se sont endormies tout au long des âges, comme nous l'avons vu cette semaine, vous voyez, du temps de Paul, l'ange de l'église d'Éphèse. Paul, qui a fondé cette église, qui en a été le messager. Souvenez-vous, Paul, qui a fondé l'église d'Éphèse, il est devenu le messager de cette église. Et l'esprit qu'il y avait dans le pays à l'époque, c'était l'esprit du lion. Et le lion, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Christ, et Christ est la parole. Paul, avec la parole pour cet âge-là, des milliers se sont endormis dans cet âge-là, pas vrai? Ensuite est venu l'âge suivant, la période où l'Église a eu à subir l'âge des ténèbres. Et c'est là que l'esprit du bœuf est sorti, le travail, le labeur et le sacrifice. Ils donnaient leur vie, des milliers de milliers se sont endormis. Ils ont été martyrisés et tout. Ils attendent, vous voyez. Ensuite est venu l'âge suivant, l'âge de Luther, le savoir-faire de l'homme. Si vous remarquez, l'homme est sorti avec cela. Et à ce moment-là, il a ajouté sa propre habileté. C'est comme ça qu'il s'est marié avec l'autre partie, vous voyez. Et s'il s'en était tenu à la sagesse de Dieu, tout simplement en réformant et en faisant sortir, seulement qu'est-ce qu'il a fait? Après l'homme qui avait le message, Luther, après la mort de Luther, ils ont formé une organisation luthérienne. Après la mort de Wesley, ils ont formé une organisation méthodiste. Vous voyez, voilà, vous prenez toujours cette direction-là. C'est simplement ce qui se produit. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ceci. Vous voyez? Bon, quelqu'un pourrait demander ce qu'il en est des pentecôtistes qui ont été le troisième âge. Vous voyez, chacun de ces âges a seulement été plongé dans un petit peu dans le Saint-Esprit. La justification est une œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Mais le baptême est le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle il a fallu qu'un prophète prophétique descende, pas de messager pour cet âge, parce que le Saint-Esprit est venu lui-même dans sa plénitude par le baptême. Mais à la fin de l'âge, de la même façon que se sont terminés tous les autres, nous voyons que c'est là que le messager est envoyé et tout ce millimélo et toutes ces choses doivent être positionnées correctement comme ça. Et ensuite vient l'enlèvement de l'Église. Mais beaucoup situent toutes ces choses, le soleil qui s'obscurcira, la lune, ils les situent de ce côté-ci dans l'âge du christianisme. C'est tout simplement qu'ils ne voient pas ces trois questions qui ont été posées à notre Seigneur, là. Vous voyez, quand il y a répondu, maintenant, hier soir, je pense qu'il n'y a aucune question du tout là-dedans. Nous avons pris chacune de ces questions, nous les avons situées directement sous les sceaux. Et les sceaux, c'est tout le livre lui-même en entier. Vous croyez ça? Vous voyez, toute la chose est enveloppée ensemble. Et nous avons examiné ce que Jésus a dit ici. Ils ont posé trois questions. Vous voyez, quand ces choses arriveraient-elles? Que sera le signe de ta venue? Et qu'en est-il de la fin du monde? Et il a enchaîné tout cela. Et nous avons fait ressortir chacun d'eux sous cela, sauf un. Qu'est-ce que c'était? Le 7e sceau. Pourquoi? Vous voyez, ce n'est pas divulgué. Voilà. Chacun d'eux est tombé juste. Je les ai mis en parallèle très exactement d'un côté et de l'autre. Et moi, j'avais écrit hier soir, quand j'ai appris que là, que j'ai pris, je suis retourné voir mon papier que j'avais noté là-bas. Eh bien, j'ai vu que j'avais fait une inversion comme ça. Je les avais intervertis. C'est ça que j'avais fait. Vous devez vous en être aperçu. Vous vous êtes aperçu, voyez-vous. J'avais écrit de ce côté-ci ce que j'avais l'intention d'écrire de cet autre côté-là. J'avais écrit ici. J'avais noté 9, 11 ou 9, 6 pour les deux, ou ce que 6, 11 et 9, 11. Et ce n'était pas ça. C'était l'inverse. C'était le verset d'après, plus bas. Et c'était là la réponse entre la peste et la guerre, vous voyez. C'est là que ça se trouvait. Alors, c'est que j'étais tellement heureux, j'étais tout excité, comme un, je savourais la stimulation de la révélation. Et donc, j'ai noté ça de ce côté-ci. J'étais assis là avec mon crayon ou mon stylo et j'ai écrit 11 aux deux endroits, alors qu'il n'aurait pas fallu. Je pense que c'était 9 au lieu de 11 pour l'autre côté. Mais bon, avez-vous vu comment ils ont soutenu parfaitement le parallèle? Maintenant, n'oubliez pas ça. Ils soutiennent le parallèle jusqu'au 6e. Ensuite, ça s'arrête, voyez-vous? Et remarquez, remarquez l'ouverture des sceaux, ça s'enchaîne jusqu'au 6e, puis ça s'arrête. Seulement un silence dans le ciel. C'est tout ce qui est dit pendant une demi-heure. Maintenant, quant à celle-ci, vous voyez, il va falloir que je me dépêche de répondre. En effet, vous voyez, chacune d'elles, c'est une prédication de 4 semaines, vous voyez. Chacune d'elles, elle est portée à sortir du sujet, mais je ne le fais pas exprès parce que je veux répondre à la question de chacun autant que possible. Ces vierges, vous voyez, elles se composent de celles de cet âge-là, n'en sont qu'une partie, vous voyez. Il y a des vierges dans chaque âge, vous voyez, un sceau. L'ange vient vers l'Église, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, vous voyez. Ensuite, de ce côté-ci, après ce qui a été écrit à l'Église d'Éphèse, nous revenons en arrière pour faire la comparaison. Un sceau est ouvert. C'est précisément de cette façon-là que nous l'apportons. Nous essayons de vous donner le tableau complet. Vous voyez ce que je veux dire? Si le Seigneur le veut. Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Les âges de l'Église. Pas vrai? Ensuite, le message aux âges de l'Église. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Vous voyez? D'abord, nous avons examiné les âges de l'Église. Nous avons examiné l'histoire. Nous avons situé le concile de Nicée et concile pré-nicéen et tout ce que nous avons pu puiser dans l'histoire. Et nous avons vu que l'interprétation précise de la parole concordait parfaitement avec l'histoire. Pour finalement en arriver à cette époque-ci, celle de la Odyssée, et vous n'avez pas besoin de l'histoire pour ça. L'histoire est en train de se faire en ce moment, voyez-vous. La voilà. Et alors, nous avons montré de ce qu'il en serait de cet âge-ci. Maintenant, nous revenons avec les sceaux et nous ouvrons ce sceau. Dieu ouvre ce sceau pour nous. Qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a un messager, un âge de l'Église. Ensuite, il y a les 7 sceaux. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir, vous voyez. C'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir révéler ces choses, vous voyez. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, remarquez, comme chacun de ces sceaux, ensuite j'ai pris ici ces 3 questions qui ont été posées à Jésus-Christ. Quand ces choses arriveront-elles où il ne restera pas pierre sur pierre? Quand est-ce que sera démoli ce centre mondial de la religion et qu'un autre sera érigé? Voyez, quand cela arrivera-t-il? La chevauchée de l'Antichrist, voyez? Et qu'est-ce qui est sorti pour l'affronter? La parole contre la parole. Ensuite, c'est devenu une affaire de politique et tout. Et c'est là qu'il y a eu le labeur du bœuf, voyez? Voilà exactement le 2e. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24, voyez? Ensuite, nous avons enchaîné avec le savoir-faire des réformateurs, alors que l'être vivant semblable à un homme est sorti pour l'affronter. Voilà ce qui s'est produit. Ensuite, nous avons enchaîné avec le suivant, le 4e sceau, alors que l'Antichrist est devenu un conglomérat et qu'il avait un nom, la mort. Maintenant, regardez bien ce que Jésus a dit. Il la jetterait au feu et ferait même mourir ses enfants. C'est la mort qui chevauche. Sur les 2, les protestants et les catholiques. La marque de la mort est apposée sur chacun d'eux. Vous voyez? Elle et ses enfants seraient détruits. Alors, si vous vous reposez sur votre dénomination, vous feriez mieux de vous en éloigner tout de suite. Et puis, quand c'en est venu au 7e sceau, Jésus s'est arrêté là. Il a ouvert le 6e sceau en disant que la lune serait changée en sang et l'obscurité et tout, et que ces choses arriveraient. Nous sommes venus de ce côté-ci, nous avons ouvert le 6e sceau. Après, le 6e sceau a été ouvert. Là, nous sommes retournés tout de suite, montrer la même chose. Voilà, nous avons pris 3 endroits différents dans les Écritures et nous les avons reliés par la révélation, vous voyez? Regardez bien, l'endroit où Jésus l'a dit, l'endroit où, quand il a ouvert le livre, cela avait été caché depuis la fondation du monde, et ensuite la révélation de ce jour-ci, qui situe tout cela, qui relie les 3. Et 3 témoins, c'est une attestation. Alors, c'est vrai. C'est absolument vrai. Donc, ces vierges qu'il y a ici, ce sont celles qui dorment. Et le corps entier est formé de tout le groupe ensemble. Ce sont elles qui sont, vous voyez, qui sont les vierges sages. Et les vierges folles sont celles qui ont commencé à l'époque là-bas, en même temps que les vierges sages, que l'Antichrist, et ce sont elles qui essaient d'acheter de l'huile. Maintenant, regardez ici, vous voyez comme c'est parfait partout où on se tourne. Si je pouvais me tenir ici et raconter les choses qui sont révélées dans cette pièce, je vous le dis, vous en auriez la tête qui tourne. Mais comment pourrait-on, alors qu'il y a déjà tout ça à voir ici? Et puis on a, je ne sais pas pourquoi, mais quand on s'isole, c'est là que les mystères commencent à s'ouvrir. Et là, on voit aussi des choses qu'on n'ose pas dire aux gens. En effet, vous voyez, si on le faisait, il commencerait des petits ismes. Considérons seulement ce qui a entraîné ce petit don de guérison, comme il a semé la confusion dans l'Église. Chacun avait une sensation, chacun avait ceci, alors qu'au fond de mon cœur, Dieu sait que c'est la vérité. Je savais que ce n'était pas juste parce qu'il me l'avait dit. Vous voyez? C'est de l'imposture, c'est seulement pour que les gens fassent fausse route. Or, c'est vrai, ça. Bon, mais... Ben, vous voyez, on ne peut pas dire ces choses. Le mieux, c'est de laisser cela. Et vous vous souvenez du troisième poule? Il a dit, il n'en parle à personne. Qu'est-ce que j'en avais dit? Combien s'en souviennent? Bien sûr, vous vous souvenez, j'étais là à essayer de passer le lacet dans l'œillet de cette petite chaussure, dans la vision. Il a dit, tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. J'ai dit, ce sera le troisième poule et il ne sera pas divulgué. Je vous le certifie par la grâce de Dieu. Maintenant, nous nous voilà maintenant arrivés au temps de la fin. Bientôt, le propitiatoire se changera en tribunal. Alors que vous voyez ces choses arriver et ces gens qui entrent, vous faites mieux d'entrer, vous aussi, si vous n'êtes pas déjà entré, vous voyez, hors d'être rassemblés dans les lieux célestes, vous voyez, ça va aussi plus loin que de simplement se réjouir. Dans les lieux célestes, si vous êtes vraiment réunis en Christ, c'est quelque chose qui inspire de la crainte. De vous tenir près de cet ange du Seigneur, pensez-vous que vous seriez simplement là à jubiler et à pousser des cris? Ce n'est pas ça. Vous êtes mort de peur, presque. Voyez? Alors, voyez-vous, il y a une différence entre simplement se réjouir et sautiller de joie, ce qui est très bien, et puis d'en venir à la vraie chose, voyez? Voyez? C'est là qu'il y a de la crainte. C'est quelque chose qui inspire de la crainte. Non pas que vous craignez d'être perdu, mais quand on est vraiment en présence d'un être angélique et du Saint-Esprit lui-même qui est là. Donc, celles-là seront une partie de l'épouse. Ce sont elles qui vont la composer. Vous voyez, toutes celles qui dorment et ne pourront pas absolument voir. Te prions maintenant d'accorder aux gens leur guérison par le moyen de ces mouchoirs qu'on posera sur eux au nom de Jésus. Amen. Bon, ça va maintenant? Merci. Est-ce que quelqu'un a marché sur quelque chose? Trop de magnétophones qui avaient une trop grande demande de courant, vous voyez? Très bien, vous n'aurez qu'à emprunter, vous n'aurez qu'à vous procurer une bande, qu'à emprunter une bande et à vous faire une copie avec celle-là. Maintenant, observez maintenant la prochaine question. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur le champ de travail en cette heure? Évidemment, voilà ce qu'ils veulent dire. Certainement, bien sûr. Ne changez rien du tout. Si Jésus devait venir demain matin, prêcher aujourd'hui comme si c'était pour dans 10 ans, mais vivez comme si c'était pour cette heure même. Ne perdez pas le nord, là. C'est contre ça que j'essaie de vous mettre en garde, vous voyez. Ne soyez pas singulier, bizarre. Ne changez rien. Seulement, si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire ou que vous faites quelque chose de mal, repentez-vous. Vous voyez, revenez à Dieu. Continuez à évangéliser de la même façon que vous l'avez toujours fait. Si vous bâtissez une maison, allez, construisez. Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Si vous bâtissez une église, allez-y, construisez-la. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque chose comme ça plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche. Vous voyez? Alors, continuez simplement. Simplement, continuez, vous faites. Tout le monde comprend maintenant? Allez, continuez simplement comme vous faites. Ne vous arrêtez surtout pas. Ne faites rien. Continuez simplement comme vous faites. Continuez à servir le Seigneur. Maintenant, par exemple, si vous étiez à l'emploi d'un homme et que vous sachiez qu'il reste 15 minutes avant l'heure de fermeture, eh bien, si vous disiez, ah, il ne reste plus que 15 minutes, je vais faire aussi bien d'aller m'asseoir, on vous les retiendrait sur votre salaire, ces 15 minutes-là. Si vous plantez du blé, plantez de votre blé. Vous arrachez les patates, allez-y, arrachez-les. Vous dites, mais personne ne va les manger, ça ne fait rien. Arrachez-les quand même, voyez. Oui, continuez simplement comme vous faites. J'ai reçu une lettre l'autre jour. Quelqu'un leur avait dit, il avait dit, « Eh bien, le temps est proche. Vendez la ferme. Vous n'aurez plus besoin de la nourriture que vous procure la ferme, disait-il, parce que le millénium va recommencer et vous n'en aurez pas besoin. Alors, allez-y. Et pendant la période de la tribulation, comme vos enfants ne sont pas sauvés, alors laissez la ferme aux enfants pour qu'ils puissent manger, mais vous vendez votre ferme. » Et ou quelque chose comme ça. Et ils avaient, j'ai dit, « Oh là là, si j'avais qu'il allait venir demain et que je sois cultivateur, j'ensemencerais mon champ aujourd'hui. » Bien sûr, s'il a fait de moi un cultivateur, je vais rester à mon poste, c'est vrai. S'il a fait de moi un mécanicien, qui a dit, quelqu'un a dit l'autre jour, il a dit, un homme est arrivé, il a dit, « Dis donc, frère, tu sais quoi? » Il a dit, « Je vais te donner mon deuxième jeu de clés. J'ai acheté une voiture neuve. » Il a dit, « Je vais te donner le deuxième jeu de clés. » Il disait ça à son pasteur. Il a dit, « Je vais te donner le deuxième jeu de clés parce que l'enlèvement pourrait se faire, tu sais. » Et il disait, « J'en en aurais plus besoin. » Le pasteur, lui, il ne partirait pas, vous voyez. Oh, c'est ce qu'on... Oh, c'est ce qu'on appelle se préparer, n'est-ce pas? Très bien. Mais c'est comme ça, vous voyez, nous ne devrions pas être comme ça. Nous devons être un chrétien sensé, ferme. Voyez-vous, j'ai été placé ici pour travailler jusqu'à la toute dernière minute. J'ai un travail à faire et je serai trouvé fidèle à mon poste. S'il vient ce matin, je veux me tenir ici même en chair. Vous dites, frère Branham, s'il allait venir ce matin, ne devriez-vous pas être là-bas? Non, monsieur, mon poste, c'est ici. Quand il viendra, je vais être ici même en train de prêcher, de dire les mêmes choses que je suis en train de dire. Et alors, quand il viendra, je vais tout simplement partir avec lui. Vous voyez, si je suis en train de buter des pommes de terre, je vais continuer à les buter de toutes mes forces. Quand il viendra, je lâcherai la bêche et je partirai. Vous vous souvenez de l'année du jubilé, s'il était en train de bêcher avec une bêche, il continuait simplement à bêcher. Il savait que ce serait l'année du jubilé, peut-être dans 10 minutes, que la trompette allait sonner l'année du jubilé. Il continuait tout simplement à charger le foin et en faire ce qu'il faisait. Et quand la trompette sonnait, alors il lâchait la fourche, il était parti. Il continuait simplement. Il s'est passé quelque chose, hein? Il y a eu un bruit ici. Une question. Selon l'ouverture du cinquième saut, Moïse et Élie doivent mourir. Qu'en est-il d'Enoch? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je ne sais pas, je vais simplement vous dire que je ne sais pas, vous voyez? Je ne connais pas toutes les réponses, mes amis. Je ne sais pas. Et si je ne le sais pas, je vais vous dire que je ne sais pas. Si je le sais, je ne vous le dirai pas tant que je ne le saurai pas. Vous voyez? Mais je ne sais pas. Je me suis souvent posé la question moi-même. Il y a eu Enoch. Je vois que Moïse et Élisée vont revenir. Ils vont se faire tuer. Vous voyez? Mais bon, Enoch, lui, il a été enlevé avant. Je me suis souvent posé la question moi-même. Eh bien, qu'en est-il de cela? Mais alors, la seule consolation que je peux exprimer, la voici. Maintenant, remarquez. Moïse a servi Dieu pendant seulement 40 ans. Vous voyez? Il avait 120 ans, mais 20 ans, pendant la première tranche de 40 ans, je veux dire, il recevait sa formation. Pas vrai? Pendant la deuxième tranche de 40 ans, Dieu l'a fait sortir de lui. Et pendant la troisième tranche de 40 ans, il a servi Dieu. Vous voyez? Mais Enoch, lui, a marché 500 ans devant Dieu. Il était irréprochable. Vous voyez? Alors, Moïse revient pour servir encore pendant quelque temps à lui et Élie. Maintenant, ça, je ne dis pas que c'est juste, vous voyez. C'est juste une idée que je vous donne, vous voyez. Mais de vous dire au juste ce qu'il en est de cette partie-là, je ne sais pas. Je ne pourrais vraiment pas vous dire ce qui s'est passé là ou ce que Dieu va faire. Quel est le nom qu'il y aura sur les gens d'Apocalypse 3:12? Je ne sais pas. Oui, il a dit, je leur donnerai un nouveau nom. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, probablement qu'il sera divulgué quand nous arriverons là-bas, mais je ne sais pas ce que c'est en ce moment, vous voyez, c'est lui qui va faire cela, vous voyez. Il leur donnerait un nouveau nom et qu'eux seuls connaîtraient, vous voyez. Bon, frère Branham, y a-t-il un passage de l'Écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important, c'est écrit important. Eh bien, c'est pour cette raison que ça n'avait aucun rapport avec ceci. D'après ce que je peux voir, mon frère ou ma sœur, qui que vous soyez, il n'y en a pas, à moins que votre compagnon soit mort. En effet, la Bible dit que nous sommes liés à eux aussi longtemps qu'ils sont vivants, voyez. Donc, pour ce qui est d'un passage de l'Écriture, c'est ce qu'on demandait ici. Y a-t-il une Écriture? Vous voyez, il y a un passage d'Écriture, je n'en vois aucun. Vous voyez, je n'en vois aucun. En effet, Paul a dit que le couple marié, si le compagnon est mort, alors ils sont libres de se marier à qui ils veulent dans le Seigneur. Mais jusqu'à ce moment-là, mais regardez votre serment, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça. Vous avez fait ce serment-là, vous voyez. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait. Maintenant, s'il y a, si vous avez trouvé et que c'est bien juste, alors très, très, très bien. Mais quant à moi, je n'en vois aucun. Que veut dire « ne fait point de mal à l'huile et au vin » dans Apocalypse 6, 6? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous venons de le voir. C'est probablement quelqu'un, vous savez, qui n'est pas arrivé à temps pour entendre le message. Et bien, pour les autres bandes, vous voyez, « ne fait point de mal à l'huile et au vin » que représente l'huile et le vin. L'huile, comme nous l'avons vu en symbole, représente le Saint-Esprit. Vous voyez, le vin, c'est le... Et l'huile, dans la Bible, ils vont ensemble dans l'adoration. Vous voyez? Et le vin, comme nous l'avons exprimé, c'est de là que j'ai eu l'idée de la stimulation. Le vin, c'est un stimulant. Et le vin, dans le naturel, c'est le type de la révélation vu qu'il stimule. Maintenant, pensez un peu. Qu'est-ce qui stimule l'Église? La révélation. Vous voyez? Alors, le vin nouveau, ce serait... Maintenant, regardez bien, l'huile et le vin allaient ensemble pour le sacrifice. Ils allaient ensemble dans l'adoration de l'Église. Maintenant, remarquez, ils étaient reliés, associés. Vous avez une concordance, regardez, et vous verrez toute une liste de versets où l'huile et le vin vont de pair pour l'adoration. Vous avez une credence, ou bien c'est écrit là. Maintenant, remarquez ceci. Mais maintenant, vous voyez, l'huile, c'est toujours le Saint-Esprit. Nous voyons cela dans Ézéchiel, nous le voyons dans l'Ancien Testament, nous le voyons tout le long du Nouveau Testament. Pourquoi voyons-nous les malades d'huile? Nous voyons les malades d'huile parce que c'est un symbole du Saint-Esprit qu'on répand sur eux, voyez? Aussi, les vierges sages avaient de l'huile, les vierges folles n'avaient pas d'huile, pas d'esprit, voyez? Bon, voilà ce qu'il en est de l'huile. Et puis le vin, si l'huile représente Dieu, Dieu est esprit, voyez? Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair et c'était Dieu. Bon, donc, si la parole, là, on en a ici une forme naturelle, alors le vin, c'est comme l'eau ou la révélation qui révèle l'interprétation de la parole. Ce qui stimule le croyant, vous voyez? Oh là là, ils sont là à dire, je n'avais jamais vu ça, ça. Oh là là, gloire, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? La stimulation, vous voyez, de la révélation. Ça non plus, je ne l'ai pas su avant l'autre jour, quand j'étais assis là, vous voyez? Donc ça, c'est pour, qu'est-ce que l'huile et le vin? C'était pour ne faire point de mal. Il s'agissait du cavalier au cheval noir. Et c'était pendant la période de l'âge des ténèbres, le troisième âge de l'Église. Remarquez. Et c'est là qu'il n'en reste qu'un tout petit peu, mais ne fait pas de mal à ça. Et je crois que si vous vous procurez le troisième saut sur bande, vous retrouverez l'endroit où nous avons expliqué dans les détails, ou en détail plutôt. Frère Branham, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, est-ce le même livre? Bien sûr. Vous voyez, parce que c'est là que tout ce qui concerne la rédemption est écrit dans ce livre, vous voyez. Leurs noms sont à l'intérieur. Vous dites, eh bien, notre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau. Frère Branham, il a été mis l'autre soir. Pas du tout, pas du tout. Vous avez seulement appris qu'il y était l'autre soir, vous voyez, parce que leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde, vous voyez. C'est tout cela, c'est le même livre, vous voyez. Bon, Frère Branham, est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés depuis la venue de Christ seront sauvés? Et qui sont les 144 000? Sont-ils ceux qui sont prédestinés à être scellés du Saint-Esprit? Et quelle est leur mission? Il y a à peu près trois questions dans une, là. Mais voici la première. Est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés qui sont venus au monde depuis Christ, seront sauvés? Non, Personne ne sera sauvé, sauf ceux dont le nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, qu'ils soient juifs ou des nations. Voyez, c'est tout. Le livre contient ce mystère et le livre ne le dévoile que maintenant, non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre, au moment où il l'appelle ces noms-là. Est-ce que finalement vous comprenez ça maintenant? Voyez, le livre ne dit pas, bon, Livel sera sauvé pendant cet âge de l'Église, ou Armand Neville, ou qui que ce soit. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il montre simplement le mystère, et il dévoile le mystère de la chose. Mais nous, personnellement, par la foi, nous le croyons. C'est ce que je disais l'autre soir. Quelqu'un a dit, eh bien, c'est inutile que j'essaie. Frère Branham m'a dit qu'il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville qui serait sauvée. Voyez, alors voyez-vous, c'est en parabole. Ce n'est pas ça. Il pourrait y en avoir des milliers de sauvés. Je ne sais pas. J'espère qu'ils seront tous sauvés, vous voyez, mais je ne sais pas. Seulement, voici de quelle façon je vais le croire. Je suis celui-là. Voyez la même chose pour vous, sinon alors il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Comment pouvez-vous braver la mort quand vous n'êtes pas vraiment sûr si vous êtes sauvé ou pas? Voyez? Comment pouvez-vous aller là-bas dire à cet infirme qui est étendu là, aveugle et atrophié, « Ainsi dit le Seigneur, lève-toi, Jésus-Christ te guérit. » Comment pouvez-vous vous tenir là devant le cadavre froid, raide de quelqu'un qui est mort, mort depuis des heures et qui gît là, froid et raide, et dire, « Ainsi dit le Seigneur, lève-toi. » Vous faites mieux. Vous devez savoir de quoi vous parlez, voyez? Eh bien, vous dites, « La mort prend tout, tout est fini. » Oui, mais quand la parole de Dieu est révélée et que vous savez que c'est Dieu, ça change tout. C'est vrai. Bon, oui, ces Juifs ne sont pas tous les Juifs qui seront sauvés. Non, monsieur, ils ne seront pas sauvés. Il n'y aura que ceux, quand ils parlent de Juifs, Juifs, c'est seulement un nom qui leur a été donné après qu'ils sont partis. Je crois que c'est Nebuchadnezzar là-bas qui a commencé le premier à les appeler Juifs à cause de la tribu de Juda qui avait été emportée là-bas. Ils ont été appelés du nom de Juifs, donc parce qu'ils étaient venus de la Judée, on leur a donné le nom de Juifs. Mais maintenant, pour ce qui est d'Israël, c'est différent. Israël et Juifs, c'est tout à fait différent. Tous les Juifs ne seront pas Israélites, vous voyez? Non, ils ne sont que Juifs. Mais d'autre part, Israël, Paul n'a jamais dit que tous les Juifs seraient sauvés. Il a dit tout Israël sera sauvé. Pourquoi? Le nom d'Israël, c'est le nom pour la rédemption depuis le début, vous voyez? Et tout Israël sera sauvé. Mais ce n'est pas tout le judaïsme qui sera sauvé, vous voyez? C'est pareil pour ceux des nations. Il y a des milliers de personnes, oui, il y a littéralement des millions dans ces organisations et qui se donnent le nom de chrétiens, Église de Christ et toutes sortes de noms semblables. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Les gens disent, bon, vous devez faire partie de telle ou telle organisation, une certaine organisation, si votre nom n'est pas dans notre registre, vous êtes perdu. Maintenant, ça, c'est une secte, voyez? C'est une secte, voyez? Il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous puissiez être sauvé, et ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, alors c'est Dieu qui fait miséricorde, et Dieu, par sa préscience, il a prédestiné une église pour sa gloire, et ce sont ceux-là qui sont sauvés. C'est vrai. Alors, votre foi est tellement ancrée là. Vous dites, eh bien, ma foi est ancrée là, et regardez quel genre de vie vous vivez. Vous voyez que vous n'êtes même pas digne d'être là. Vous n'êtes même pas ancré comme il faut. Vous êtes ancré dans du sable au lieu d'être ancré dans le roc. À la première petite vague, vous serez désancré. Oui, que la parole soit révélée dans quelque chose. Ce n'est pas ce que mon Église enseigne. Ça montre tout de suite que vous n'étiez pas du tout ancré dans le roc. Vous l'étiez dans le sable. Oui, c'est vrai. Bon, donc, vous voyez là, et les 144 000 sont-ils ceux qui sont prédestinés? Oui, monsieur, c'est Israël, l'Israël spirituel. Pensez un peu, ils seront des millions là-bas. Je ne sais pas combien ils sont là-bas en ce moment. J'imagine qu'il doit y en avoir tout un groupe, mais ce n'est pas parce qu'ils sont en Judée qu'ils vont tous être sauvés, voyez? Savez-vous à peu près combien ils peuvent être là-bas en ce moment? Je ne sais pas, mais probablement qu'après la prochaine persécution qui va bientôt venir, les nombres augmentent. Vous savez, j'ai un enregistrement là-dessus, je vais l'apporter dans l'Ouest, là, une des églises de l'Alliance, celle qui est, c'est simplement l'ancienne. Oh, ça m'échappe en ce moment. C'est ce qui a commencé. Il y en a là-bas en Afrique, la réforme hollandaise. C'est l'Église de la réforme hollandaise. Voilà ce que l'Église de l'Alliance. Maintenant, s'il y a ceux-là qui sont assis ici, je vais vous dire pourquoi. Vous vous en teniez encore à ce vieux catéchisme de Heidelberg et c'est précisément ce qui a fait de vous que vous êtes encore dans la réforme hollandaise. Alors, vous auriez beau faire peau neuve en prenant un nom américain. C'est cette chose-là qui est là-dessous parce que vous tirez votre enseignement de ce même vieux catéchisme, celui d'Heidelberg. Demandez donc à votre pasteur si c'est vrai. Alors maintenant, les 144 000, ce sont ceux qui sont prédestinés à être scellés du Saint-Esprit. Oui, monsieur, c'est tout à fait exact. Très bien. Maintenant, si je n'ai pas répondu comme vous vouliez, bien, peut-être que je pourrais me tromper. Mais ça, c'est ce que moi, j'en sais, voyez-vous. C'est ce que moi, j'en sais. Frère Branham, comme vous avez travaillé sur la semence du serpent, je n'avais pas remarqué celle-là. Cela me prend par surprise. Semence du serpent cette semaine, serait-il de mise de poser cette question? Mes amis m'ont demandé d'expliquer Genèse 4:1 et je ne peux pas. Voudriez-vous m'aider? C'est en dehors du sujet, mais de toute façon, je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu. Voyons voir. Laissez-moi me retremper un petit instant. Je pense que c'est quand elle a dit « J'ai acquis un fils avec l'Éternel ». Je crois que c'est ça. Je pense qu'Ève a dit ça, là, je vais vérifier pour m'en assurer. C'est que l'autre soir, j'ai dit 7 au lieu de 700, au lieu de 7000. Alors, ça me met tellement sous tension, vous voyez, il faut vraiment faire attention. Et de tous les côtés, il y a l'ennemi, on est conscient, vous voyez. Oui, c'est bien ça. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel. » Bon. Je vais simplement vous répondre par une question, mon frère ou ma sœur. Et maintenant, souvenez-vous, je ne vous vise pas du tout. J'essaie de vous aider, voyez-vous. Je vous aime et j'aime la personne qui a peut-être pu critiquer cela, mais je ne pense pas que cette personne-ci, c'est pour critiquer. Ils ont dit « aidez-moi », voyez, parce que ces gens-là, ils se croient. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas assez bien renseignés par l'esprit pour savoir quoi dire à la personne qui leur a posé la question. Donc, elle dit ici, la question, c'est sans doute ce qu'il dit, c'est qu'Ève a dit qu'elle avait acquis cet homme avec l'Éternel. Par quel moyen pensez-vous que la vie puisse jamais venir si elle ne vient pas du Seigneur? La bonne comme la mauvaise. Qui a envoyé Judas Iscariote dans le monde? Dites-le-moi. La Bible dit qu'il était né le fils de la perdition. Posez-leur donc celle-là. Ce serait comme un verre dans un citron, vous voyez? Voyez, maintenant, vous voyez, ils ne peuvent pas, c'est ça. Remarquez, ensuite, si vous voulez avoir une discussion un peu plus technique avec eux, regardez, Ève a dit ici, si vous voulez examiner le langage qui est utilisé, alors que c'est écrit de façon à être caché aux yeux des âges et des intelligents, Ève ici, l'enseignement qu'on en tirerait, c'est ce que de Dieu qu'elle aurait eu ce fils, et il est un esprit, alors il ne peut pas le faire, voyez. Maintenant, regardez bien si vous voulez constater cela. J'ai acquis un homme avec l'Éternel. Vous ne pouvez pas l'interpréter, mais il faut en avoir l'interprétation juste, vous voyez? Oui, monsieur. Non, monsieur. Dans ce cas-là, alors l'Esprit, et nous tenons toujours de la nature de notre parent. Vous le savez. Regardez le bébé, la nature. Eh bien, alors, Adam était un fils de Dieu. Ève était une fille de Dieu. Ils ont été les tout premiers dans la création de Dieu. Ils ne pouvaient donc pas avoir la moindre trace de mal nulle part en eux. Le mal, on ne savait même pas ce que c'était. Dans ce cas-là, comment se fait-il que Caïn est un menteur, un meurtrier et tout le reste? D'où est-ce qu'il est venu? Posez-vous la question. C'était la semence du serpent, voyez? N'est-ce pas que la Bible le dit? Observez sa semence tout le long. Là, il est devenu. À qui appartient le monde? Au diable. Qui le dirige en ce moment? Le diable. Tout à fait exact. Le diable dirige le monde. Il a dit à Jésus, il a dit, « Tu vois comme il est beau avec toute sa gloire. Je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. » Voyez-vous, c'est lui qui le dirige. Donc, il le possède. Maintenant, observez, ses enfants sont sages, les enfants du diable. Ou prenez les enfants de Caïn, si vous voulez, et suivez donc les généalogies d'un bout à l'autre, et vous verrez que c'était des hommes intelligents, chacun d'eux. Mais là, quand il a tué Abel et que Dieu lui a redonné Seth, c'était un type du juste pour racheter. Il est mort, ensuite il ressuscite. Et de là, maintenant, regardez bien, non pas par la première semence, la naturelle, ils sont morts. Est-ce que vous êtes bien attentifs là? Vous voyez, la première semence de la semence naturelle, qui n'était que naturellement bonne, c'était le type de l'Église moderne, Abel. Pour préserver cette lignée qui allait venir, celle-là est morte, pour qu'une autre puisse être suscitée, vous voyez? Il faut donc qu'elle renaisse de nouveau, vous comprenez? Très bien. C'est juste pour que vous saisissiez, voyez-vous, voilà, c'est le type parfait. Donc, même l'homme naturel qui naît d'Adam, son père, il présente cette tendance naturelle. Ça ne marchera pas. L'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu. C'est pourquoi un homme est venu dans le naturel et il est mort pour rétablir cela de nouveau. Et c'est représenté par la mort d'Abel. Et son remplacement par Seth. Et observez quel genre de peuple c'était, donc, cela qu'a produit cet esprit-là. Des gens humbles, des cultivateurs, des bergers. Observez ce qu'a produit la sagesse du monde ici. Des hommes intelligents, des bâtisseurs, et qui travaillaient les métaux, et avec une intelligence développée dans toutes sortes de domaines et tout. Regardez où ils ont abouti. Ils étaient là-bas, et Dieu les a tous détruits. Tous, et il a sauvé les hommes. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, « Ceux qui sont doux hériteront la terre? » Alors oui, ne vous en faites pas, ils sont absolument à court d'arguments. Vous voyez, ils ne croient pas que c'était le fils de Caïn, mais nous avons une bande là-dessus, si vous aimeriez en entendre l'explication détaillée, vous voyez. Non, monsieur. Et j'ai vu cet article qu'ils ont mis dans le journal là-bas qui déclarait que la science se propose maintenant de démontrer qu'Ève n'a pas du tout mangé une pomme, elle a mangé un abricot, vous voyez? J'ai le journal là-bas chez moi en ce moment, vous voyez? C'est un abricot. Jusqu'où les gens peuvent-ils? Voilà bien la pensée charnelle, vous voyez? Et puis, en fait, Moïse n'a jamais traversé dans l'eau. Il a passé à travers une mer de roseaux. Il a fait traverser Israël au bout de la mer morte. Il y avait un tas de roseaux là-bas, toute une mer de roseaux à l'endroit où il y avait déjà de l'eau et elle s'était retirée. Moïse a pris un raccourci. Il a contourné par là. Et les églises orthodoxes ont accepté ça. Vous l'avez vu, les églises orthodoxes ont accepté ça. Elles ont été d'accord là-dessus. Oh là là, ne pouvez-vous pas voir la semence du serpent, l'Antichrist et toute la chose qui repose en plein là? Bien sûr. Oui, monsieur. Frère Branham, pourriez-vous prier pour mon petit? Eh bien, c'est une demande de prière, je vois. Priez pour mon petit-fils qui est très malade. Il a la grippe. Il est à l'hôtel Riverview. Seigneur Jésus, cette pauvre personne ici, elle n'a pas écrit ça juste comme ça pour rien. Elle a vu que tu as même délivré un petit garçon du rhumatisme articulaire aigu l'autre soir. Elle sait que tu es le grand Dieu et nous prions pour ce petit garçon. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Amen. Quand quelqu'un écrit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Ils ont peut-être, importe combien ça peut avoir de la simple pour nous et combien, mais il y a une raison à la chose. Vous voyez, cette dame, ce petit garçon, quelque chose. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou si ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Maintenant, je regrette de vous le dire, je ne sais pas. Vous voyez, je vais le relire. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs, oh oui, est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou si ce sera l'esprit d'Élie dans un autre homme? Maintenant, si je pouvais donner la réponse exacte à ça, je pourrais vous dire ce qu'il en est d'Enoch, vous voyez, mais je ne peux pas, vous voyez. Tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit ce qu'il en sera, et bon, il se pourrait que, bon, je suis plutôt porté, maintenant, je vais le dire comme ceci, et j'espère que sur la bande, que les frères qui écouteront les bandes vont le comprendre. Je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit. En effet, vous voyez, il est dit, n'est-ce pas que sur Élisée, n'est-ce pas que l'esprit d'Élie repose sur Élisée? Vous voyez, l'esprit d'Élie, il a fait exactement ce qu'Élie avait fait, vous voyez? Alors, si je ne pourrais pas dire que c'est vrai, je ne sais pas, vous voyez? Je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ceci au sujet du baptême? Matthieu 28, 19 enseigne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Pierre, dans Actes 2, 38, au nom du Seigneur Jésus. Quand ce changement est-il survenu dans les Actes des apôtres? Or, moi, je crois au Seigneur Jésus. Eh bien, frère ou sœur, quelle que soit la personne qui l'a écrite, aucun changement n'est survenu, voyez-vous? Cela, Pierre a fait exactement ce que Jésus avait dit de faire. Maintenant, si quelqu'un venait dire « utiliser les titres de Père, Fils et Saint-Esprit », eux feraient ce que Pierre a dit de ne pas faire, seulement ce que Dieu a dit de ne pas faire, voyez? Or, Jésus a dit que nous allons prendre seulement un instant. Non, je veux juste vous montrer quelque chose ici, remarquez. Maintenant, remarquez, si vous êtes ici, la personne en question, j'avais placé trois objets ici. Maintenant, regardez. Ceci, c'est le Père. Ceci, c'est le Fils. Ceci, c'est le Saint-Esprit, comme les Trinitaires le croient. Ils croient que ce sont trois individus distincts. Ils croient ça, voyez? Et bon, maintenant, je vais... Et puis, dans Matthieu 28, 19, Jésus a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Celui... Non, excusez-moi, je suis en train de citer les Actes, ou dans Acte 2, je crois. Non, c'est Luc 24, 49 que je cite. Il a dit, je vais le lire, alors je l'aurai comme il faut, vous voyez, alors, parce que l'autre jour, j'ai dit, « Oh, je ne veux bien m'assurer de le citer correctement. Je connais le titre de ce que vous dites, là, mais je veux citer exactement ce qu'il a dit. » Commençons au verset 16 du chapitre 29, « Et pendant que les 11 étaient à table, les 11 allèrent dans la Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été... Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Maintenant, où est la puissance de Dieu? Où est Dieu? Si toute la puissance du ciel et toute la puissance qu'il y a sur la terre a été donnée, alors où est Dieu? Ben voilà, vous voyez, c'est lui qui est en train de vous parler. Très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la conception trinitaire de cela, c'est « Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. » Ça, ce n'est même pas dans l'Écriture sainte, vous voyez. Il a dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du... » pas en mettant un nom devant chacun, un seul nom. Regardez bien ici, il n'a pas dit « Baptisez-les dans les noms, N-O-M, un seul nom, dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Voyez? Maintenant, je voudrais vous demander ceci. Père, est-ce que c'est un nom? Fils, est-ce que c'est un nom? Combien y a-t-il de pères ici? Lequel d'entre vous a pour nom père? Combien y a-t-il de fils ici? Combien y a-t-il d'êtres humains ici? Voyez? Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom père, fils ou être humain? Voyez? Comme une femme qui disait un jour, elle disait, « Frère Branham, le Saint-Esprit, c'est un nom. C'est une personne. » J'ai dit, « Absolument. Moi, je suis une personne, mais mon nom, ce n'est pas personne. C'est ce que je suis, une personne. » Voyez? Mon nom, c'est William Branham. Mais je suis une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ça qu'il est. Ce n'est pas un nom. C'est un titre de la personne de Dieu. Voyez? C'est un titre qui se rapporte à la personnalité de Dieu, ce qu'il est. Maintenant, s'il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ou non pas dans les noms du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Et si Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, alors qu'en est-il? Disons que ce soit le nom, ou bien lequel, si vous voulez l'appeler l'un de ce nom-là, alors lequel est le nom? Si vous voulez appeler le titre un nom, alors lequel est le nom? Quel titre voulez-vous utiliser pour baptiser? Celui de Père, celui de Fils? C'est au singulier, voyez-vous? Maintenant, prenons donc ici, c'est le dernier livre de Matthieu. Comme je l'ai toujours expliqué, si vous lisez une histoire d'amour et que ça dit « Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », voyez ce qu'il y a, c'est ce que vous ne savez pas qui sont Jean et Marie. Reprenez l'histoire au début pour voir qui sont Jean et Marie, voyez. Or, c'est ça que vous faites ici dans Matthieu. Vous en lisez seulement la dernière partie. Reprenez Matthieu au début et lisez l'histoire. Ça, c'était le dernier chapitre de Matthieu et les derniers versets. C'est comme si vous ramassiez un livre et que vous disiez, Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'était Jean Jones et Marie une telle. C'était, non, c'était Jean. C'était Jean-Henri et c'était une telle. C'est Jean Machin et une telle. Non, vous ne savez pas encore, vous voyez. La seule chose à faire pour être sûr de votre fait, c'est de reprendre le livre et de le lire. Voyez, vous ne pouvez pas ramasser une pièce ici, vous devez assembler tout, ça vous composer le tableau. Maintenant, reprenons dans Matthieu au chapitre 1, et là, ça donne les généalogies au début du chapitre. Ensuite, quand on arrive au verset 18, il est dit, « Voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus. » Pas vrai? Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, écoutez bien encore, vous le dites, ceci est c'est qui? Dieu le. Maintenant, celui-ci, c'est lequel? Celui-ci, c'est lequel? Celui-ci, c'est lequel? Fils, très bien. Bon, nous l'avons maintenant. Donc, ceci, vous avez dit que c'était quoi? Dieu le qui? Le Saint-Esprit, très bien. Bon, très bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du... Mais je pensais que vous aviez dit que Dieu était son père. Voyons, il y a quelque chose qui cloche ici. Il ne peut pas avoir deux pères. Ça, vous le savez. Voyons, il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, lequel de ces hommes, si ce sont trois personnes, lequel d'entre eux est son père? La Bible dit clairement ici, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dieu le Père n'a rien eu à voir là-dedans. Et Jésus a dit que Dieu était son père, et nous savons que Dieu était son père. Donc, il y a eu deux pères, là, pour sûr qu'il est illégitime. Maintenant, vous voyez à quoi vous avez abouti? Donc, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Souvenez-vous, c'est un brave homme, là, et la main du Seigneur, c'est une main comme celle de maintenant. Ceux qui sont prédestinés vont saisir, vous voyez, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Suivez-vous dans votre Bible. Il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu le Père. » Est-ce que j'ai mal lu? Oui, bien sûr que oui. L'enfant qu'elle a conçu, Dieu le Père, n'a rien à voir là-dedans, c'est du Saint-Esprit. Et pourtant, nous savons que Dieu était son Père, pas vrai? Alors, qu'en est-il? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, bien sûr. Là, vous avez compris, vous voyez? Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne, sinon il y a eu deux papas. Et dans ce cas-là, quelle sorte de personne adorez-vous? Quelle sorte de Dieu avez-vous là? Alors, voyez, Dieu, le Saint-Esprit et Dieu le Père, c'est un seul et même esprit. Elle enfantera un fils, celui-là ici, et tu appelleras son nom, quoi? Son nom. Maintenant, souvenez-vous, son nom, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple pour de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète à qui vient la parole. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Ce qui est interprété est Dieu avec nous. Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? La Bible a dit que son nom, c'était Jésus. Et puis cet homme ici qui essayait de débattre ça une fois ici au tabernacle, il disait, « Frère Branham a réussi à trouver des échappatoires pour toutes les autres, mais il ne réussira pas pour celle-ci. » Il a dit ici, on voit très précisément trois personnes différentes parfaites. Il a dit, « Matthieu, chapitre 3, ici, il y avait Jean qui était là en train de prêcher. Voici le Fils qui s'avance pour être baptisé. Il est entré dans l'eau, il s'est fait baptiser par Jean, il est ressorti de l'eau. Et voici, il est dit, les cieux s'ouvrirent sur lui. Il est dit, le Saint-Esprit est descendu du ciel comme une colombe. Il est descendu et une voix a fait entendre du ciel ces mots. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui trois personnes distinguent et en même temps. » Oh là là! Oui, tout ça pour montrer que les gens qui n'ont pas le baptême et qui ne sont pas appelés à la fonction de prédicateur ne sont absolument pas à leur place derrière une chaire. C'est vrai. Je pourrais sortir tellement d'arguments à cette personne avec l'aide de Dieu là qu'il serait complètement déboussolé et en aurait la tête qui tourne. Regardez, peu importe ce que c'est. Je ne veux pas dire que ça ne sonne pas bien. Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça, Seigneur. Je ne voulais pas. J'ai senti qu'il m'a arrêté quand j'ai dit ça, vous voyez. Alors, je ne voulais pas dire ça de cette façon-là. Je suis désolé. Je Je crois que le Saint-Esprit pourrait révéler un secret à cette personne. Ça sonne mieux comme ça. C'est comme d'accorder un instrument quand on fait quelque chose de mal, et vous le savez, vous les chrétiens, quand vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, il n'a pas aimé ça, vous voyez, en parlant comme ça, ça m'incluait. Vous voyez, je n'ai absolument rien à y voir, je suis seulement, je ne voudrais pas, ni moi ni rien, que ce soit seulement lui qui fasse le travail, c'est de lui que vient le son. La trompette n'émet aucun son, c'est la voix qui est derrière qui émet le son. Maintenant, regardez bien, cet homme a mal à interpréter la parole, vous voyez. Souvenez-vous, c'est caché aux yeux des sages et des intelligents, révélé aux enfants. Donc ici, il y a cette personne, Jésus-Christ, qui est là sur la terre. Maintenant, les cieux, bien sûr, ce sont les couches de l'atmosphère en haut. Maintenant, observez, Jean rendit témoignage. Maintenant, cet homme-là, il doit forcément dire, voici Dieu le Père, et voici Dieu le Saint-Esprit, comme une colombe, et voici Dieu le Fils, qui donne trois personnes. C'est faux. Jean, qui était ici, il savait qu'ici, c'était l'agneau. Jean dit, j'en rends témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu comme un agneau. Voilà Dieu, l'Esprit, comme une colombe. Je veux dire, ça, c'est exactement comme ce que j'ai dit l'autre soir. Vous voyez, au lieu de 700, vous voyez, l'Esprit de Dieu ici, c'était l'agneau. L'Esprit de Dieu, la colombe, c'était Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu du ciel. Et une voix a fait entendre du ciel ces mots. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. » Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis dans ma main. Voyez? Voyez? C'est lui. Maintenant, quel était son nom? Certainement. Voyez? Donc, pour ce qui est de la théorie trinitaire selon laquelle il y aurait trois dieux différents, ça, c'est du paganisme. Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible. Cela n'a jamais été enseigné dans le message du lion. Mais cela a été adopté dans le suivant, et c'était Antichrist. Demandez à qui vous voudrez, à n'importe quel théologien. Cela n'a été introduit qu'avec la doctrine des Nicolaites. Voilà pourquoi on a retrouvé ça avec Martin Luther. Voilà pourquoi ça s'est poursuivi avec John Wesley. Et ça s'est transmis jusque chez les pentecôtistes. À l'époque où les pentecôtistes sont sortis, ils ont formé le groupe des Jésus seuls. Maintenant, ça, c'est aussi, c'est faux. Comment Jésus pourrait-il être son propre père, voyez? Donc, voilà qui règle la question, là. Mais il doit venir un temps de l'aigle, voyez? C'est en ce temps-là que tous ces mystères doivent être résolus, voyez? Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres du Seigneur Jésus-Christ. Observez tous les trois. Matthieu a dit, Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre a dit, Seigneur, Jésus-Christ, qui est le Père. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Pas vrai? Le Père, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit, le Logos qui est sorti de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont absolument trois titres de la personne de Dieu manifestés de trois façons différentes ou par trois attributs de lumière de lui-même. Et pour que ce soit clair pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, ce sont comme trois fonctions du même Dieu. En fait, ce sont trois attributs du même Dieu. Dieu qui agit dans trois choses différentes, dans la paternité, dans la filiation, dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu est parfait en trois. Vous vous souvenez du nombre de l'Antichrist? Quatre. Voyez, Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est absolument le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux. Rien que je te baptise au nom de Jésus, ça, c'est absolument faux. Je connais beaucoup de Jésus, voyons, dans les pays latins. Il y en a tout plein de Jésus. Mais il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ, ce qui exprime précisément qui il est. Il y a beaucoup de Branham. Si vous voulez parler de moi personnellement, mais je suis le seul William Marion Branham. Ça, c'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham et tout, un peu partout. Mais ici, on fait nettement appel à une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le oint. Celui-là, il n'y en a qu'un. Or, ça, c'est exact. Alors, si vous voulez en savoir plus long, écrivez une lettre ou quelque chose à un moment où je répondrai à d'autres questions. Je voudrais essayer de m'occuper de celle-ci et voir s'il nous sera possible de prier pour quelques-uns des malades ici qui sont souffrants. Frère Branham, si cette question n'est pas de mise, n'a pas sa place, n'y répondez pas. C'est gentil, ça, j'apprécie. Quels enfants vont partir dans l'enlèvement s'il y en a des petits? Merci. Ils n'ont pas signé leur nom. Maintenant, si vous ne signez pas, ce n'est pas nécessaire. Mais regardez, quand Dieu met un nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Il n'y a rien au monde qui puisse l'en effacer parce qu'il est écrit avec l'encre du sang de Christ. Qu'il soit grand comme ceci, grand comme ça ou n'importe, il partira quand même, voyez? Tous les enfants, toute l'Église, tout au complet, c'est Dieu par sa préscience. Or, nous ne savons pas. Vous dites, Frère Branham, pouvez-vous prouver que vous y êtes? Non, monsieur, je ne peux pas le prouver. Dieu pourrait m'utiliser comme instrument pour autre chose et vous utiliser de la même manière. Mais je crois, et c'est par la foi que je suis sauvé. Ce n'est pas par la connaissance que je suis sauvé, par la foi. C'est par ce moyen-là que vous êtes sauvé. C'est par ce moyen-là que nous sommes tous sauvés. Mais souvenez-vous, Dieu est infini, le croyez-vous? Infini. Eh bien, comme il est infini, ça fait qu'il est, et puis il est omniscient, le croyez-vous? Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il ne peut pas être omniscient sans être infini, voyez-vous? Rien n'a jamais échappé à sa connaissance. Il connaissait chaque moucheron qu'il y a sur la terre. Il savait combien de fois il clignerait des yeux et combien il donnerait de souffle et combien tous ensemble il en donnerait. Il connaissait chaque respiration que vous prendriez, à quelle profondeur elle descendrait dans vos poumons. Ça, c'est infini. Maintenant, s'il est infini, ça fait qu'il est omniscient, pas vrai? Et s'il est omniscient, ça fait qu'il est omniprésent parce qu'il connaît très précisément la minute, l'heure, le temps, au 55 millième de seconde près, le moment où cela va arriver. Voyez? Vous saisissez maintenant? Donc, il connaît toutes choses. Et c'est pour cette raison qu'il possède tout pouvoir. Il connaît toutes choses et il peut tout faire. Maintenant, voyons voir. Bon, et tous les enfants que Dieu, tous ceux que Dieu, quand il... Maintenant, souvenez-vous, quand Jésus a-t-il, la Bible dit, oh, nous savons que Jésus a été tué vers l'an 30 après Jésus-Christ, pas vrai? C'était vers le milieu de l'année, je pense, en 30 après Jésus-Christ. Bon. Mais la Bible dit qu'il a été immolé avant même que le monde ait été créé. Et votre nom, quand le livre de l'agneau, quand l'agneau a été immolé pour racheter ce livre, voici quelque chose de glorieux, là. Ça pourrait causer de la stimulation, regardez. Quand l'agneau, maintenant, souvenez-vous, la Bible dit que le livre de vie de l'agneau a été écrit avant la fondation du monde. Et votre nom y a été mis, il était dans ce livre, quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde pour racheter tous les noms qui étaient écrits dans ce livre. Voyez? Vous avez saisi maintenant? Voyez, il n'y a rien qui fait défaut. Tout fonctionne très précisément comme la grande horloge de Dieu, vous voyez? Comme les aiguilles qui courent sur le cadran. Votre nom y a été mis avant la fondation du monde quand l'agneau a été immolé pour racheter ce qu'il y avait dans ce livre. Et maintenant, il s'avance et il prend le livre pour réclamer ce qu'il a racheté. Je ne veux pas me mettre à parler de ça. Nous ne répondrons plus à aucune question aujourd'hui. Bien, question. Est-ce que l'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la même chose? Non. L'enfer, ce qui est traduit dans la Bible, je crois. Maintenant, il y a des érudits qui sont assis ici. Je veux leur rendre hommage. Notre frère Riverson assis ici, frère Vale, et beaucoup de frères qui sont de vrais théologiens. Le mot qui a été traduit... Hadès, ça veut dire la tombe, pas vrai? C'est le mot grec pour tombe. Mais l'étang de feu, c'est autre chose. En effet, dans l'Apocalypse, les deux, le Hadès et tout, ont été jetés dans l'étang de feu. Vous voyez? Très bien. Maintenant, voyons voir. Sinon, est-ce que l'étang de feu et l'enfer sont éternels? Non, monsieur. Non, monsieur. Rien de ce qui a été créé n'est éternel, non. Tout ce qui a été créé, c'est pour cette raison qu'un enfer éternel, ça ne peut pas exister. Si jamais quelqu'un de vous, que vous allez brûler dans un enfer éternel, je veux voir l'Écriture pour ça, vous voyez. Ça n'existe pas, ça. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pour l'Antichrist et les siens, c'est-à-dire le diable incarné, qui a été créé pour ça, pour détruire. Et tout ce qui, tout, il n'y a qu'une chose, une seule, de tout ce qui existe. Le monde entier et tout le reste, il n'y a qu'une chose qui soit éternelle, et c'est Dieu. Avant qu'il y ait un atome ou des électrons, ou avant même qu'il y ait de la lumière cosmique, des électrons ou quoi que ce soit, il était Dieu. Il est le Créateur et c'est le seul moyen par lequel vous puissiez être éternel, c'est de recevoir la vie éternelle. Le mot grec pour ça, je pense, c'est Zoé. C'est bien ça, n'est-ce pas? Zoé, Zoé. Et puis cette vie, Dieu vous la transmet, comme le Père, votre Père, vous transmet sa vie à travers le vœu du mariage avec la mère. Et lui, par ce moyen-là, il transmet la joie de transmettre, saisissez-moi, de transmettre sa vie pour un fils. Et c'est comme ça que Dieu fait. La joie de transmettre sa vie à un fils, voyez? Et alors, vous devenez une partie de lui, c'est-à-dire Zoé, la vie même de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. C'est la seule chose qui... Vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle connaît son corps. Et il doit forcément ressusciter. C'est qu'il lui est impossible de rester là. Comme l'Esprit de Christ planait au-dessus du corps, l'Esprit de Dieu au-dessus de Christ, en ce grand jour-là, il savait qu'il serait ressuscité. Ainsi en est-il des saints pour leur corps. Maintenant, souvenez-vous, Jésus, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts. En effet, il fallait qu'il y aille. Il était la barrière contre le péché. Il a prêché aux hommes qui étaient dans le séjour des morts, qui ne s'étaient pas repentis au jour de la patience du temps de Noé, pas vrai? Il est allé dans le séjour des morts et il a prêché aux hommes qui étaient séparés de Dieu. Mort, ça veut dire séparation. Et il s'était séparé de Dieu et il ne pourrait plus jamais être établi. Et Jésus est allé rendre témoignage de ce qu'ils étaient, celui qui avait été annoncé, la semence de la femme. La semence du serpent, vous voyez ce que la semence du serpent a fait? L'Antichrist, elle a abouti dans la mort, la séparation, le cheval roux. La semence de la femme, la vie, aboutit sur le cheval blanc, Jésus-Christ. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? L'un contre l'autre, la semence du serpent contre la semence de la femme. Vous saisissez maintenant? Oh, nous pourrions rester un bout de temps là-dessus. Ce serait bien, n'est-ce pas? Maintenons-nous en ceci. Frère Branham, est-ce que le premier cavalier, le premier sceau, est l'accomplissement de 2 Thessaloniciens, la révélation de l'homme du péché? Oui, c'est exact. C'est ça. Celle-là est facile. C'est ça, c'est l'homme du péché. C'est le même homme qui poursuit simplement sa chevauchée par étapes jusqu'à ce qu'il monte un cheval de couleur pâle, appelé la mort. Christ continue de descendre par la justification, la sanctification jusqu'au cheval blanc. C'est ça, c'est la vie, vous voyez. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure, vous voyez. Ils vont dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier après le millénium pour être jugés. Vous voyez? En effet, la Bible dit que les autres vivants, les autres morts, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ensuite, il y a eu une résurrection. Et c'est là que les deux ressuscitent, les justes et les injustes. Et ils ont été jugés par Christ et l'Épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de saints. Pas vrai? Son épouse. Le jugement s'assit, les livres furent ouverts, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Il a séparé là les boucs d'avec les brebis. Pas vrai? Ça n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était là en train de juger avec sa reine, la reine et le roi ensemble. Il vint avec ses saints, des dizaines de milliers le servaient. Son épouse. Ensuite, le jugement s'assit, et alors les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation pour vous faire comprendre, la méditation du cowboy, voyez, voilà. Non, eux, ce sont l'Église, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens. Qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Il ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes et à qui il est prêché, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, mais ce seront de bonnes personnes. Ils seront ressuscités et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur prêchera, vous voyez? On leur prêchera, et ceux qui le feront, ce seront les gens mêmes qui leur auront témoigné du message, c'est-à-dire, sortez de là. Voyez? J'espère que c'est un éclaircissement. J'en ai tellement ici que... Frère Branham, est-ce que le septième ange, avec l'esprit d'Élie, c'est le même homme que l'Élie qui est envoyé aux 144 000 Juifs pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement? Pour certains d'entre nous, ce n'est pas clair. Non, ce n'est pas le même, vous voyez. Ce sont deux hommes différents. L'Élisée qui est venu sous forme d'Élie, ce n'était pas Élie. Et l'esprit d'Élie qui est venu sur un homme appelé Jean-Baptiste, ce n'était pas Élie. Et l'homme, le septième ange, le messager à la fin de l'âge de Laodicée, ce ne sera pas le vrai Élie. Ce sera quelqu'un des nations qui viendra vers les siens. Élie sera, ou l'esprit d'Élie qui viendra ensuite dans et vers les gens là-bas, ce sera un juif. Vous voyez? Car ils sont envoyés à leur propre peuple. Voilà la révélation que j'en ai, la raison pour laquelle avec Tommy Osborne, quand nous en avons discuté cette fois-là, Tommy et moi, je ne savais pas, je priais pour les malades, c'est tout. Et j'étais arrivé là avec une dame, elle était venue Fort Wayne Gospel Tabernacle, et elle était missionnaire à l'étranger, elle avait le sein gros comme ça, c'était tout simplement rongé par le cancer. Elle était là dans la petite maison où nous habitions autrefois, ici sur la rue, et j'ai prié pour la chasseur, elle a été guérie et est retournée sur le champ de travail. Et quand elle est arrivée en Afrique, elle avait laissé un petit livre là sur les missions. Je me suis dit, eh bien, les missionnaires, c'est bien. Et je me suis dit, je n'ai jamais beaucoup songé aux missionnaires. Et donc, je me suis dit, eh bien, eux, c'est simplement ce que Dieu leur a donné comme fonction là-bas. Alors, ma place à moi, c'est ici, à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn. Alors, je continuais à faire du mieux que je pouvais. Mais un jour que j'étais assis dans mon bureau, j'ai ramassé ce livre. Il y avait une photo de la race noire d'un vieux papa âgé. Il n'avait qu'une petite couronne de cheveux blancs. Et en dessous, voici ce qui était écrit. Homme blanc, où était ton père? Tu vois, maintenant je suis vieux et je n'ai plus les idées aussi claires. Je ne comprends plus très bien. Si j'avais connu Jésus quand j'étais jeune homme, je l'aurais fait connaître à mon peuple. Eh bien, je l'ai lu. Et quelque chose n'arrêtait pas de me dire, relis-le. J'ai continué à lire et savez où c'est déjà arrivé ça? Lis et lis encore, il y a quelque chose. C'est comme là-bas, ce jour-là à Greensmill, quand je suis sorti de la caverne. Je n'arrivais pas à comprendre ça, que les gens puissent parler en langue et pousser des cris avec l'authentique Saint-Esprit et être quand même antichrist. Parler en langue authentique du Saint-Esprit et être quand même un démon. C'est vrai, je peux vous le prouver. Oui. Et puis, remarquez alors qu'il s'était tenu là. Donc, le parler en langue, ce n'est pas du tout la preuve qu'on a le Saint-Esprit. C'est l'un des dons du Saint-Esprit, voyez. Et le diable peut imiter tout ce qu'il y a, la guérison divine et tout le reste. Il a dit, plusieurs viendront à moi à ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas, ça s'est prêché l'Évangile? N'ai-je pas fait des œuvres puissantes par ton nom? Et toutes ces choses-là, je dis, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connaissais même pas. La Bible dit que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Et ce même gratteron qui est dans le champ de blé, là, il peut être aussi heureux et pousser des cris à cause de la même eau qui est tombée sur lui, alors que la pluie est envoyée sur tous les deux. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette espèce de petit gâteron peut se redresser là et être tout aussi heureux et pousser autant de cris et être tout aussi rempli de la même pluie que le blé. Voilà. Alors, ils peuvent bien pousser des cris, parler en langue et imiter tout ce qu'ils voudront. Ce jour-là, ils se feront appeler ouvriers d'iniquité. Comme je vous le disais tout à l'heure, écoutez ce que je vous dis. Écoutez attentivement. Inspectez-vous, examinez-vous par la parole pour voir où vous en êtes. Vous, les femmes qui avez les cheveux courts, laissez-les pousser. Si vous portez des shorts, enlevez-les, conduisez-vous comme une dame. Vous, les hommes qui fumez encore la cigarette et qui fréquentez les salles de billard, arrêtez ça. Peu importe combien vous pouvez prétendre, si vous vous accrochez encore à cette organisation et que vous dites « ce qu'il faut, c'est ceci », vous feriez mieux d'arrêter. Vérifiez la chose, examinez-la par la parole. Nous sommes complètement sortis de... Notre vie devrait être bien au-dessus des cheveux courts et tout. Dans cet âge-ci, maintenant, nous sommes absorbés par quelque chose, là, alors que Dieu est en train de révéler les mystères cachés qui avaient été mis dans le livre de vie avant la fondation du monde. Et ceux qui ont oublié dans ces petites choses, ils vont saisir ce qu'il en est. comme Gédéon qui avait un tri parmi les hommes, il y en avait des milliers et des milliers. Dieu a dit, ils sont trop nombreux, fais un autre tri. Il leur a fait passer un autre test, fais un autre tri. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus pour faire le travail. C'est exactement les femmes pentecôtistes, elles vont et viennent, elles sont assises là, elles entendent et elles savent par la parole que c'est mal. Vous pensez qu'elles vont s'y plier? Non, monsieur, tous les ans, quand je passe par là, je trouve plus de cheveux coupés que j'en ai au commencement. On me dit, qu'est-ce que ça va avoir? Vous devriez, quelqu'un m'a dit, mais frère Branham, les gens vous considèrent comme un prophète. Or, je n'ai pas dit que j'étais prophète. Personne ne m'entend dire ça, mais je dirai ceci. C'est ce que vous faites. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir le Saint-Esprit et comment recevoir ceci et comment recevoir les grands dons spirituels? Comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? C'est vrai. Faites ces petites choses-là. Descendez à la base. Balayez tout et commencez comme il faut. Amen. Très bien. De toute façon, est-ce que j'en étais? Voyons voir. Je n'ai pas fait exprès de sortir du sujet. Excusez-moi. Vous voyez? Très bien. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas clair. Est-ce que Lily, c'est le même? Oui, c'est ça. Non, l'Élie qui viendra à ceux des nations, ce sera quelqu'un des nations loin de cet esprit-là. Parce que Dieu a toujours utilisé cet esprit-là pour faire sortir son peuple du chaos chaque fois. Et comme il a bien accompli son dessein, il le fait redescendre de nouveau. En effet, ici, il disait un esprit rempli de raffinement, d'instruction. C'est ce genre-là qui l'attirait. Il suscite un homme qui sait tout juste son alphabet, qui n'arrive pas à prononcer ses mots comme il faut. Et tout le reste, quelqu'un qui sort du désert quelque part, là, il introduit cela et fait son chemin parmi les gens tout simple. Et il saisissent aussi vite que ça. Ils saisissent, vous voyez, si c'était venu avec le col, comme Paul le disait, je ne suis pas venu vers vous avec les raffinements d'instruction, mais je suis venu vers vous avec la puissance de la résurrection. Il a fallu à Dieu 3 ans et demi en Arabie pour le débarrasser de ça, de son instruction. Il a fallu 40 ans pour le faire sortir de Moïse, vous voyez. Alors, je ne dis pas que Dieu, je n'encourage pas l'illettrisme, là, mais j'essaie de vous dire qu'il n'est pas nécessaire. L'instruction, la sagesse de ce monde va à l'encontre. L'instruction a été le plus grand obstacle que l'Évangile ait jamais eu. Si nous n'avions pas l'instruction, nous n'aurions pas tous ces grands séminaires et ces choses que nous avons maintenant. Ce seraient des gens tout simples qui écouteraient la parole, mais ils sont tellement maniérés, tellement embrouillés, tellement guindés là-bas, malgré ces organisations, qu'ils vont rester avec elles. Voilà tout. Ils adoptent cet esprit-là. Avez-vous déjà vu ce qui arrive quand une femme qui est bonne se marie avec un homme vil? Cet homme vil, soit qu'il devienne un homme bon comme la femme, ou que la femme devienne vil comme lui. Vous voyez? C'est vrai. C'est pour ça qu'il a dit, sortez du milieu d'elle, alors que je m'apprête à vous prendre dans cet enlèvement. Vous devez avoir le genre de foi qu'il faut pour vous faire partir d'ici. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Une moitié a été confirmée, l'alliance, quand Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs, voyez? Il a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine, là, quand Daniel avait dit qu'il le ferait. Maintenant, souvenez-vous, il a été solidement confirmé aux Juifs, mais leurs yeux avaient été aveuglés pour que cette période des nations puisse venir. Ils ne pouvaient pas voir le plan complet. Vous voyez? Et il a prouvé qu'il était prophète. Il a fait très précisément ce que ferait le prophète. Il leur a montré le signe du prophète et votre propre parole dit que si un homme se dit spirituel ou prophète, observez ce qu'il dit et si cela arrive, que cela arrive constamment, ce qu'il dit continuellement, c'est comme vous regardez dans la Bible où il est dit, frappez et on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez. Maintenant, si vous remarquez, c'est celui qui frappe sans arrêt. Ne bougez pas de là, comme le juge Inique qui refusait de répondre à la femme, qui n'arrêtait pas de frapper à sa porte, dit, tu m'as sur les bras. Non pas chercher, dire, Seigneur, j'aimerais avoir ceci, amen. Ce n'est pas ça, ne bougez pas de là tant que vous ne l'aurez pas reçu. Vous savez que ça viendra, alors il l'a promis, alors ne bougez pas de là tant que vous ne l'aurez pas en main, voyez. Bon, donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation après l'enlèvement de l'Église. Alors voilà les 3 ans et demi ici où ce sera alors confirmé à nouveau par des prophètes. Vous voyez, Moïse et Élie, Apocalypse 11. Maintenant, voyons celle-ci. Si vous êtes l'un d'eux qui l'a choisi, monterez-vous dans l'épouse? Oui, mais oui. Oui, monsieur, celle-là est facile. Frère Branham, vouliez-vous dire qu'il y en avait 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant les Baals ou bien 700? C'est 7000 que je voulais dire. Pardonnez-moi pour ça, voyez-vous. C'est seulement une manière de parler. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, avez-vous remarqué, j'étais là et j'ai dit, il rendit témoignage ayant vu l'agneau. Voyez, l'agneau était sur terre, voyez. Il rendit témoignage ayant vu l'Esprit de Dieu venir sur l'agneau. Or là, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, voyez. Or ça, la façon dont c'est écrit, en fait, c'est une construction grecque qui met le verbe avant l'adverbe. Mais si vous remarquez ici, en fait, ce serait comme ceci. Maintenant, prenez simplement la parole, voyez. La Bible dit, dans la traduction de Saint-Jacques ici, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. » Mais en fait, si on le disait comme on le dit aujourd'hui, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer en lui. » Vous l'inverseriez, là, voyez-vous. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. » Voyez, maintenant, aujourd'hui, on dirait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer en lui. » Voyez, le même mot, mais c'est tout simplement inversé, voyez. Donc, oui, je voulais dire, pardonnez-moi, je vous en prie, et mes frères, vous qui écoutez la bande là-bas, et mes amis, écoutez, je ne voulais pas le dire comme ça. Je suis ministre de l'Évangile, je l'ai prêché tellement de fois que je savais que c'était 7000. C'est simplement parce que je l'ai dit comme ça, 700, je ne voulais pas dire qu'il n'y en avait que 700. Je voulais dire, c'est simplement que je ne l'ai pas vu dans l'Écriture. Je ne l'ai pas lu dans l'Écriture, ça m'est venu comme ça à l'esprit pendant que je parlais. J'ai tout simplement dit 700 au lieu de 7000. J'ai fait ce genre d'erreur-là tout le temps. Je ne suis vraiment pas brillant, alors pardonnez-moi, voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Oui, monsieur. Voyez? Bon, tenez là. Vous voyez, je ne veux pas me mettre à parler de ça parce que je prêcherai une prédication là-dessus, voyez? Mais je ne vais pas le faire. Seulement, je veux vous montrer, quand Dieu a donné à Adam son épouse, prise de son côté, celui-ci a dit, « Elle est chair de ma chair et os de mes os. » Pas vrai? Quand Dieu a donné à Christ son épouse, que l'Esprit a donné la chair, l'épouse, il a été frappé, son côté a été percé sous son cœur et l'eau, le sang et l'Esprit sont sortis, ce qui est devenu chair de sa chair et os de son os. Nous sommes la chair et les os. L'épouse, ce sera la chair et les os de Christ. Exactement. C'est bien son épouse. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ. Certainement. C'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ. Bien sûr. Elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs, pas vrai? C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Maintenant, souvenez-vous, combien étaient ici au début, dimanche passé, voyez-vous, vous souvenez de sur quoi j'ai prêché? L'humilité. Oh, n'oubliez pas ça. Je vais m'arrêter un instant pour vous prévenir encore. Rappelez-vous, quand Dieu prédit qu'un grand événement va arriver, les gens regardent tellement loin par leur sagesse qu'ils ne voient pas ce qui arrive. Quand Dieu dit que quelque chose est grand, le monde s'en moque. Cette bande d'ignorants. C'est vrai. Et quand la grande société, la grande Église établie, dit « Oh, ça, c'est glorieux! » Dieu dit une bande d'ignorants. Alors, vous voyez, il faut faire attention. Je ne veux peut-être pas dire que c'est de cette manière-là, exactement de cette manière-là, mais c'est comme ça. Regardez, ici, il y avait une grande et sainte Église orthodoxe. Nous connaissons la parole. Nous avons des écoles. Nous avons des séminaires. Nos hommes, ils sont tellement cultivés. Voyons donc, ça fait des centaines d'années que nous sommes fidèles à Jéhovah. Nous sommes l'Église. Nous sommes le Sanhédrin. Nous avons le conseil des églises ici, les deux, les pharisiens et les sadducéens et toutes les dénominations. On se rassemble comme ce qui est en train d'arriver, vous voyez. Nous sommes tous un, le conseil de l'Église. Nous sommes les grosses légumes ici. Nous connaissons ce passage de l'Écriture, cette espèce d'ignorant là-bas au bord du fleuve, avec le visage couvert de barbe et un morceau de peau. Et le mouton, il veut nous apprendre à nous. C'est certain, il ne voulait pas écouter cela. Mais la Bible dit, dans Malachie, au 3e chapitre, « J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi. » 712 ans avant, Jean, oh, le grand prophète d'Ésaïe, il s'était tenu là, il avait dit, « Il y aura une voix qui criera dans le désert. » Préparez le chemin pour l'Éternel et aplanissez son sentier. C'est vrai, il a dit, et beaucoup d'entre eux, il a dit, tous les lieux élevés seront abaissés. Ils ont dit, il y aura, quand cet homme viendra, il déplacera les montagnes en les montrant du doigt. Et tous les lieux bas, les fossés seront relevés. Et puis tous les lieux raboteux seront aplanis. Frères, nous allons planter du maïs dans tous les champs des environs. Et nous allons faire des choses formidables quand cet homme-là arrivera. Vous voyez, il s'attendait à ce que Dieu tourne la manivelle pour faire descendre la passerelle et qu'il dise, allez, descends, grand percusseur de mon Messie. Et ensuite, dès qu'il serait parti, il la remonterait, ce serait la fin de son ministère. Il tournerait la manivelle pour la faire redescendre. Il s'installerait ici, juste à côté du séminaire. Il dirait, très bien, mon fils bien-aimé, descends leur dire, vous voyez. Oh là là, regardez quand il est venu. Que s'est-il donc passé? Celui qui est arrivé, c'est un homme qui ne connaissait aucune de leurs écoles. Il n'avait même pas de carte de membre. Oh, il n'avait aucune référence. Non, personne n'a jamais eu connaissance qu'il aille à l'école un seul jour de sa vie. On ne fait même pas savoir à sa façon de parler. Il n'employait même pas de terme d'un ecclésiastique. Il parlait de serpents, de cognées et du désert et de choses semblables, vous voyez, d'arbres. Il n'employait pas les termes du corps ecclésiastique de ce jour-là, ni de ce jour-ci, ni de n'importe quel jour. Il est venu sassafra, comme on dit en Indiana. Il est sorti des buissons quelque part. Il n'était même pas rasé. Il avait les cheveux hérissés sur la tête. Je n'ai pas l'impression qu'il avait pris un bain une fois tous les deux ou trois mois. Exact. Il ne portait jamais de pyjama la nuit. Il ne conduisait jamais d'automobile. Il ne se brossait jamais les dents. Oh là là! Quel personnage que celui-là! Certainement pas. Le voilà qui est arrivé en marchant d'un pas décidé dans le désert. Comme ça, il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour l'Éternel et aplanissez son sentier. » Certains des docteurs, ils étaient là, ils disaient, dis donc, toi, on ne peut pas collaborer avec toi pour cette campagne. Écoute, on ne peut pas faire ça. Eh bien, on est ta carte. Où sont tes papiers? Et on ne s'est pas occupé d'eux. Il avait un message, alors il a continué à l'apporter. Vous voyez, à prêcher comme si de rien n'était. Il a dit, attendez, eh bien, si nous y allons, nous amènerons l'évêque là-bas aujourd'hui et on va voir s'il en dira. Nous irons là-bas. Si nous savons qu'eux, ils sont à la tête de l'Église et nous savons qu'ils devraient reconnaître ça, s'il est de Dieu, il reconnaîtra notre évêque. Ils les ont tous placés là, un côté de l'autre. Ils se sont tenus là, les dignitaires. Il a dit, vous, race de vipères, vous, serpents dans l'herbe, les cols tournés vers l'arrière, les saints-pères et ainsi de suite, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous savez que votre heure est proche. Ne pensez pas que vous dites, eh bien, nous sommes membres de ceci, de cela. Je vous le dis, le Dieu que je sers de ces pierres, il peut susciter des enfants, Abraham. Oh là là, là, il va leur servir l'inverse du discours ecclésiastique. Moi, je vous déclare que la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et moi, je vous baptiserai d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi, la lune sera changée en sang, et oh là là, il nettoiera entièrement ses airs. Et il prendra la paille et il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Et il emportera le blé au grenier. Il séparera la mauvaise herbe avec le blé. Oh là là, quel message! Ils ont dit, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était l'heure de quoi? Oh, quelle ignorance! L'homme, nous l'avons, c'est Frère Jones. C'est lui qui va faire ça. C'est quelqu'un de cet âge-ci. L'évêque un tel va le faire, le Saint-Père un tel. Oh là là, vous voyez? Dieu dans la simplicité, vous voyez? Œuvrant dans la simplicité. Et puis, tout à coup, il était là un jour, il a dit, « Oui, il est au milieu de vous! » Il était tellement sûr qu'il était ce précurseur, il savait qui il était. C'est pour ça qu'il pouvait les secouer comme il l'a fait. Il disait maintenant, ne tremblez pas, mais continuez simplement votre chemin. Vous, les soldats, obéissez à vos maîtres et vous avez fait quelque chose de mal. Prenez, que devons-nous faire? Devons-nous cesser de faire ceci? Devrions-nous arrêter de faire ceci? Il a dit, continuez simplement comme vous faites. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allez, si vous cultivez des pommes de terre, cultivez-les. Voyez, vous, les soldats, n'employez pas la violence et vous faites ceci, ce que vous faites. Continuez simplement à le faire. Obéissez à vos maîtres et ainsi de suite. Rabbi, que devrions-nous faire? Continuez simplement comme vous faites. Voyez? Mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il savait que c'était l'heure de son message. Il savait qu'il devait présenter cette personne. Il savait qu'il était là. Un au milieu de vous, vous ne le voyez pas. Il se passe des choses dont vous ne connaissez rien. Et alors donc, il va se passer quelque chose, a-t-il dit. Vous voyez, il sera là. Et je le reconnaîtrai. Finalement, un jour, il a dit, voici, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, maintenant, mon temps est écoulé. Je vous l'ai présenté. Maintenant, il faut que je diminue. Il faut que je disparaisse de la scène. C'est lui qui va prendre la relève. Le millénium ne va pas tarder à commencer. Vous voyez, le temps est proche. Alors, quand il est arrivé, alors que Jean lui-même avait dit, il va vraiment secouer dans tous les sens. Il va séparer le blé de la paille. Il va la brûler. Il va nettoyer entièrement ses airs. Et il a son vin à la main. Mais qu'est-ce qu'il était? Un petit, ils avaient déjà leur tableau tout prêt. Oh, mon vieux, il aura une lance d'une portée d'un mille. Il sera ici en Palestine. Il se mettra là et sur un de ses nuages blancs, il ramassera tous ses Romains comme ceci pour les précipiter en enfer. Et il continuera comme ça, vous voyez, jusqu'à ce qu'il les ait exterminés. Mais il avait déjà tout arrangé. Et quand le moment est venu, alors un petit agneau a commencé à circuler au milieu d'eux, humble et doux. On lui marchait sur les pieds de ce côté-ci, de ce côté-là, mais que Jean a dit, maintenant, regardez, Jean le prophète, il a dit, allez lui-même, demandez, est-il vraiment celui-là? Tellement un que le prophète a passé à côté. Il a dit, est-il celui-là ou devons-nous en attendre un autre? Or, il ne lui a pas du tout donné un traité à ses disciples dans Matthieu 11. Ils sont venus lui demander quand les disciples de Jean est en prison. Donc, il avait eu tellement d'embêtements que je crois que c'est Pember qui a dit son œil d'aigle s'était voilé là-bas. Vous voyez, il pouvait. Voilà qu'il était revenu sur terre. Il avait été là-haut dans les hauteurs, mais quand il eut terminé sa prophétie, il est retombé sur terre. Vous voyez, vu qu'on l'a mis en prison, vous voyez, il n'avait plus besoin de ses grandes ailes. Alors, il restait là simplement, mais il avait volé plus haut que tous les autres. Je vais vous montrer quelque chose. Dieu l'avait. Et Jésus le savait, vous voyez, parce que c'était le Dieu incarné, vous voyez. Il était alors, il a dit, or, il ne lui a pas du tout donné un traité sur la façon de bien se conduire en prison, de dire, maintenant, attendez un instant, je vais rédiger un petit essai ici, rapporter ça à Jean pour lui faire savoir comment bien se conduire quand il est en prison à cause de moi. Vous voyez, non, ce n'est pas ça. Il n'a pas dit, allez dire à Jean qu'il aurait dû passer son doctorat en philosophie avant d'arriver, vous voyez. S'il avait fait ça, Jean a été honnête, il a posé la question, il a dit, restez donc jusqu'à la fin de cette réunion et après vous irez montrer à Jean ce qui est arrivé, alors il saura. Si vous lui dites ce qui est en train de se passer, alors il saura, vous voyez. Allez simplement, dites-lui que ça, il est en prison, il ne peut pas être ici, mais vous avez assisté à la réunion, vous avez vu ce qui s'est arrivé, allez lui dire. Et donc les disciples ont dit, très bien maître, et les voilà partis de l'autre côté de la colline, Jésus qui est assis sur un rocher, il les a simplement regardés aller jusqu'à ce qu'ils soient de l'autre côté, qu'ils aient gravi la colline. Il s'est tourné vers l'assemblée, il a dit, qui êtes-vous allé voir du temps de Jean? Voyez, qui êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un homme qui a le col tourné vers l'arrière et des habits précieux et très raffinés et instruits? Est-ce là le genre d'homme que vous êtes allé voir? Il a dit non. Ce genre-là, vous savez ce que c'est? De ceux qui embrassent les bébés, vous savez, qui travaillent dans les palais des rois. Eux, Jean, n'étaient pas de ce genre-là. Eh bien, alors, a-t-il dit, pourquoi êtes-vous allé? Pour voir un homme qui aurait reçu un ministère, qui l'aurait tout de suite rattaché à une organisation ou quelque chose comme ça, agité partout. Alors, si les unitaires ne veulent pas de lui, il ira chez les trinitaires. Si les trinitaires ne veulent pas de lui, il ira vers l'Église de Dieu ou n'importe quoi. Ou est-ce que le genre d'homme que vous êtes allé voir? Oh non, pas Jean. Il a dit, alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il a dit, et c'est exact, vous dis-je. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Il était plus qu'un prophète. Il était plus. Si vous pouvez le recevoir, il est celui dont il a été écrit dans la Bible. Voyez-vous, à l'époque, le passage de l'Écriture, « J'enverrai mon messager devant ma face. » Malachie 3, voyez, il préparera le chemin devant moi, voyez. Ils n'ont pas compris, même les disciples n'ont pas saisi, voyez. C'est vrai. Oh là là, la simplicité. Soyez humbles, voyez. Abaissez-vous quand Dieu promet quelque chose de grand. Voyez, ça, c'est les grands à ses yeux. Maintenant, si vous voulez toujours garder cette idée en tête, je voudrais que garder cette idée en tête et quand ceci arrivera, alors vous pourrez la modifier. Ramassez donc une de ces petites fleurs du printemps qui vont pousser cette année. Ou prenez un simple brin d'herbe, tenez-le dans votre main et dites, je vais tenir ceci maintenant et de voir que quelque chose de tellement simple à fabriquer ceci. Et je voudrais bien voir le cerveau qui est capable d'envoyer une fusée sur la Lune fabriquer ce brin d'herbe. Vous l'aurez toujours. Vous pouvez être sûr de ça. Vous l'aurez toujours. Voyez, il y a de la vie dans le brin d'herbe, voyez. C'est tellement simple et tellement humble. Voyez, si un homme est un grand homme, très bien. Mais s'il est assez grand pour se faire simple, voyez, il trouvera Dieu. Mais s'il ne se fait pas simple, il ne le verra jamais. Donc, vous devez faire simple maintenant. Dans l'Apocalypse, au verset 5-9, qui sont ceux qu'on trouve en train de chanter quand l'agneau prend le livre de la... prend le livre? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Non. Apocalypse 6, 5, 9, plutôt, non. Si vous remarquez, ce ne sont pas les saints. Il n'a pas encore réclamé son bien. Vous voyez, ce ne sont pas les saints. Si vous remarquez, ce sont les anciens, les êtres vivants. Ils chantent. Disons-le pour que cette personne, et ensuite, je vais essayer. Il m'en reste encore une demi-douzaine ici, et je pense qu'ils répondent en quelques minutes, voyons. Apocalypse 5, 9, lisons donc un peu plus haut. Donc, la personne, là, elle est honnête à ce sujet, elle veut savoir. Regardez bien. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, parfum qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau. Voyez, en disant, tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Voyez, tu as racheté. Tu as fait deux des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est le groupe céleste. Ce ne sont pas encore les rachetés. Très bien, maintenant. Frère Branham, si tous les... Maintenant, un instant. Je pense... Excusez-moi. Frère Branham, si tous les saints... Oui, les saints sont pris dans l'enlèvement, d'où Élie et Moïse viendront-ils? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Il est arrivé quelque chose, voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? Personne qui est malade, ni rien? Voyons voir Apocalypse, où ça, frère? Oh, la question à laquelle je viens de répondre. Maintenant, voyons voir. Tu, le bon endroit. Quand il eut le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. » Et le voici, j'avais fait une erreur là-dessus. Voyez, tu as racheté pour Dieu par le sang des hommes de toute tribu. C'est exact. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas permis. Vous voyez, je n'avais pas lu que la première partie de ce verset, vous voyez? C'était seulement ou quelque chose qui avait été écrit ici et j'essayais de me dépêcher pour terminer en regardant l'horloge. Vous avez vu comme il m'a arrêté là-dessus? Gloire! Vous voyez, je n'avais pas lu l'autre partie du tout, vous voyez? J'ai pris jusqu'ici et regardez bien, il chantait un cantique nouveau et je me suis arrêté, vous voyez? Mais regardez bien, le cantique qu'il chantait en disant, tu nous as rachetés de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Bien sûr, ce sont eux. Oh là là, vous le voyez? Et en passant, il y avait aussi une autre question après. Pouvez-vous, C-O-N-T-R-O, contrôler ceux qui ont reçu? Eh bien, contrôler ceux qui ont reçu des robes blanches dans Apocalypse 6, 11 avec ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Maintenant, voyons voir. Apocalypse 6. Je ne peux vraiment pas voir ça à la hâte, les amis, comme ceci, vous voyez, parce que ce sera, je vais donner une mauvaise réponse. Or, il ne voulait pas que je fasse ça. C'est la vérité, je vous le certifie. Le Saint-Esprit de Dieu sait que c'est la vérité, vous voyez. Il y avait simplement quelque chose que je regardais simplement à l'horloge, 11h30, je me disais, si je ne me dépêche pas, je ne pourrais pas prier pour les malades. Et j'essaie d'y arriver, et j'ai la tête tellement, je ne peux pas. Rappelez-vous, il faut vraiment que vous compreniez, là, que je suis un être humain, vous voyez. Il y a 7 jours que je suis là-bas et je dois encore chercher Dieu pour autre chose cet après-midi, mais il était tellement décidé à ne pas me faire laisser faire cette erreur qu'ils m'ont fait revenir lire le reste de ce verset. C'est comme si quelque chose m'avait envahi, comme une vague qui disait « Reviens, reviens ». Je me disais « Revenir, quoi? Arrêter tout de suite et commencer à prier pour les malades? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? » Et comme j'étais le bras pour prendre ça, au même moment, quelqu'un a dit « Relisez le verset ». Et je l'ai relu et à la fin de cette question, voilà qu'il y avait, voyez, Apocalypse 6. Voyez, j'avais lu le début, on dirait vraiment que c'est ça au début, voyez-vous, et il chantait un cantique nouveau. Mais plus bas, voyez, de quoi il s'agissait quand on continue après, il nous a rachetés. Bien sûr, il s'agissait de l'épouse, des saints qui ont été enlevés. Pouvez-vous, étonner, certainement, l'agneau avait le livre dans sa main. Il avait déjà quitté le trône de médiation de la grâce, voyez. Vous voyez, comme le Saint-Esprit veille, en effet, c'est précisément la même chose que ce que j'ai dit l'autre soir quand il m'avait parlé dans le bureau et que je me suis venu ici vous prêcher à vous tous sur le moment où l'agneau a quitté le lieu. Oh là là! Maintenant, je crois vraiment qu'on a un sujet, vous voyez. L'agneau avait quitté son trône et il s'était avancé, vous voyez, comme cela m'avait été donné là-bas quand il était présent, cette lumière qui est Christ, quand il était présent, c'est ce qu'il avait dit. Quand l'agneau quitte le siège du trône, du médiateur qui était, il devient ici et le jour de la rédemption est terminé pour l'Église. La prochaine rédemption, ce sera pour les Juifs, les 144 000, pas vrai? En effet, il a promis qu'il couperait l'arbre, vous savez. Maintenant, il arrive, l'agneau, et alors le jour de la rédemption est terminé, et tous ceux qui seront rachetés, ils ont déjà été rachetés et inscrits dans le livre de vie, et il est ici en train d'ouvrir le livre, exact. Oh, merci Seigneur, voyez, pardonne à ton serviteur agité d'avoir voulu voir quelque chose à la hâte. Bon, pouvez-vous tolérer ceux qui ont reçu des robes blanches dans Apocalypse 6:11? Maintenant, voyons voir 6:11. Très bien. Où en sommes-nous là? Des robes blanches, oui, ce sont les crucifiés sous l'autel, les Juifs dans cette période-là, ils ont reçu des robes blanches. Avec ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dans Apocalypse 7:14. Non, maintenant ça c'est différent, assurément. En effet, vous voyez ici, nous voyons ici que ceux-là ont reçu des robes blanches. Ici, dans cette période, ils ont reçu des robes blanches eux-mêmes par grâce. Et ceux qui sont ici, ils avaient lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et dans l'Apocalypse ici, cette grande foule qui s'est présentée devant Dieu de toute tribu, de toute langue, de toute nation, alors que ceux-là, ce sont parfaitement et précisément les martyrs, les Juifs. Vous voyez? Bon, maintenant, ça, c'est bien exact. Bien. Frère Branham, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement, d'où les Élie et Moïse viendront-ils? Seront-ils juifs? Ou bien est-ce que notre Élie qui nous a été donné sera avec eux? Non. Celui des nations qui aura été loin de cet esprit-là pour appeler les nations à sortir, il sera parti. En effet, vous voyez, l'Église tout entière au complet a été enlevée. Et ces deux prophètes du chapitre 11 descendent. Le jour de grâce est terminé pour les nations. Ils sont envoyés aux Juifs. Non, ce ne sera pas le même homme. Là, je suis assez sûr de ça. Maintenant, souvenez-vous ce que je vous dis. C'est simplement d'après ce que j'en sais, voyons. Ceci, ce qui est ici, est-ce que le blé et le vin, ou est-ce que BLE? Non, ça devait vouloir dire qu'est-ce que, il n'y a pas de qu'est-ce que là. Ça dit seulement est-ce que le quoi et le vin ou le blé et le vin, qu'est-ce que dans Apocalypse 6:6. Voyons ce que c'est alors que je vais le prendre là. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et une mesure d'orge pour un denier ne fait point de mal au vin et à l'huile. Je pense que c'est ce qu'on voulait dire, le blé et le vin, l'un par rapport à l'autre. Est-ce plutôt un symbole, le vin pris à la table de la communion d'Apocalypse de 1 Corinthiens 11, 24? Est-ce que le vin, non, l'un d'eux, c'est un symbole spirituel, vous voyez, et l'autre, en fait, c'est la révélation de la parole. Se pourrait-il que la raison pour laquelle beaucoup sont malades, c'est parce que nous n'avons pas discerné le corps du Seigneur? Exact. Mais maintenant, révélé par l'ouverture du sixième sceau,
let me sit
Maintenant, voyons voir. Laissez-moi voir si je peux comprendre. Ce n'est pas vous, c'est moi. Vous l'avez écrit comme il faut. C'est simplement moi. Se pourrait-il que la raison pour laquelle beaucoup sont malades, c'est parce que nous ne discernons pas le corps du Seigneur? Il y a un point d'interrogation au bout. Eh bien, l'Écriture dit qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes parmi vous à cause du discernement du corps du Seigneur. C'est tout à fait exact. En effet, vous voyez, le corps du Seigneur, c'est l'épouse. Et beaucoup vont de travers et ils ne marchent pas conformément à ceci. C'est vrai, vous voyez. Ils ne savent pas se conduire comme il faut. Ils vivent n'importe comment. Ils prennent la communion et tout. Et ce n'est pas bien, vous voyez. Quand les gens prennent la communion alors qu'ils mentent, qu'ils volent, qu'ils boivent et ça, c'est terrible. Vous ne devriez pas faire ça, vous voyez. Mais maintenant, révélé par l'ouverture du sixième sceau. L'ouverture du sixième sceau, voyons voir. Non? Bon, vous avez vu que l'ouverture du sixième sceau ici, c'était pour les Juifs. Voyez, l'Église est déjà partie. C'est la période de la tribulation. Alors, ce ne serait pas la même chose, non? Non, ce n'est pas. L'un d'eux est un vin spirituel, c'est la révélation de la parole. Alors, le croyant est stimulé par la révélation de la parole. Et l'autre est un symbole du sang de Jésus qui est pris à la table du Seigneur. Bon, ça, c'est ce que j'en comprends. Y aura-t-il des gens qui ne sont pas prédestinés, qui accepteront le Seigneur? Si oui, est-ce qu'ils vont tomber? Pas s'ils sont prédestinés, non. Vous voyez, ils ne pourraient pas. Où se trouve l'Écriture qui montre que le catholicisme va séduire les Juifs pour s'emparer de leur richesse? Donc, où au juste est-il dit que la bête va séduire pour avoir les richesses? Il n'a pas dit ça, mais nous présumons que c'était... Alors, l'autre soir, vous vous souvenez, soyez bien attentifs quand vous écouterez la banque, ce n'est jamais dit que c'est ce qu'il ferait. J'ai dit, voyez, les catholiques, c'est le groupe le plus riche du monde. Il n'y a personne comme eux. Et ce qu'ils n'ont pas, ce sont les Juifs qui ont le reste. C'est ainsi que l'économie de ce pays, maintenant, nous vivons en ce moment de l'argent des impôts, selon Lifeline, des impôts qui est diffusé directement de Washington, D.C., qui seront prélevés dans 40 ans. C'est ce que nous dépensons en ce moment. Voilà à quel point nous sommes endettés à émettre des bons, vous voyez, sur des impôts qui seront prélevés dans 40 ans. La nation est fauchée. Elle est finie. Or, Castro, la seule chose sensée qu'il ait jamais faite, c'est quand il a contrefait la monnaie, qu'il a remboursé les titres, les bons, et les a brûlés, et qu'il a changé la monnaie. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Et il ne reste plus qu'une chose à faire pour les États-Unis. Maintenant, souvenez-vous, c'est William Branham qui parle, voyez. C'est mon opinion à moi. Ce n'est qu'une supposition en y regardant simplement du point de vue naturel ce qui pourrait être à côté d'un million de mille. Je crois vraiment que ce sera effectivement là par l'argent, l'amour de l'argent et la racine de tous les maux. Et je crois que c'est là ce qui va faire démarrer toute la chose. Or, l'Église catholique, là, comme elle a fait payer les messes et tout, elle détient les richesses du monde. Vous vous souvenez, la Bible dit qu'elle était riche et comme elle l'était. Et souvenez-vous, pas seulement aux dépens d'une nation, elle s'est enrichie aux dépens de toutes les nations sous le ciel. Elle a le bras long. C'est elle qui possède l'argent. Maintenant, ce qu'il ne possède pas, c'est Wall Street qui le possède avec les Juifs à sa tête. Bon, et vous vous souvenez, il s'était procuré l'argent, Jacob, quand il est revenu. Nous l'avons vu hier soir et qu'il était revenu Israël. Il avait vraiment l'argent, mais son argent ne pouvait rien lui acheter. Vous voyez, après Ésaü. Ésaü aussi, il avait. Vous voyez, les deux anti et l'un. Vous voyez, c'est tout à fait parfait. Maintenant, regardez bien ceci. J'ai dit qu'il pourrait peut-être décider de s'unir à cause de l'argent. Et la puissance de Rome aura le dessus sur la puissance des Juifs et sur l'argent en rompant l'alliance. Ça pourrait ne pas être le cas. Vous voyez, je sais qu'ils vont la rompre. Mais je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'ils vont faire de « ne m'a pas été révélé ». Mais regardez, qu'en est-il si aujourd'hui la seule chose que nous puissions faire, ce serait de, si nous prenons les impôts, si cette déclaration est exacte, la monnaie de l'argent, des impôts qui seront prélevés dans 40 ans, vous voyez, notre or, nous l'avons déjà dépensé, nous sommes fauchés, nous n'avons pas d'argent, et nous vivons seulement sur une réputation passée. Voilà ce que fait l'Église aujourd'hui, l'Église, pas l'épouse. L'Église vit sur la réputation passée qu'elle s'est acquise il y a bien longtemps sous le ministère de l'époque du lion. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église mère. Nous avons commencé, c'est vrai. Voyez, elle vit sur sa réputation. Les méthodistes vivent sur leur réputation. Les baptistes vivent sur leur réputation. Les pentecôtistes vivent sur la leur. Gloire à Dieu. Il y a longtemps, quand les saints dansaient par l'Esprit et qu'ils, le Seigneur a fait ceci et cela. Ça, c'est du passé. Maintenant, nous avons tous grandi, frère. Oh là là. Voyez, tous sur leur réputation passée. Cette nation vit sur la réputation passée de ce qu'étaient des ancêtres. Voyez, à cause de ça, nous nous imaginons que nous serons sauvés. Quand Dieu a eu égard à Israël, ce n'est jamais à cause de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils avaient été dans le passé, mais de ce qu'ils étaient sur le moment. Remarquez, mais maintenant, voici ce que je pense, ce que moi, je pense qui va arriver. Or, ça pourrait ne pas être le cas. Je crois qu'il viendra un temps où nous serons forcés de prendre une décision. Et à ce moment-là, alors nous, au lieu de changer la monnaie, quel effet cela aurait-il sur la Philip Morris? Quel effet cela aurait-il sur les compagnies de whisky? Quel effet cela aurait-il sur l'industrie sidérurgique? Quel effet cela aurait-il sur le commerce tout entier? Quel effet? Ça les ruinerait. Ils seraient fauchés. Mais si nous pouvons emprunter cet argent, voyez comme il est intelligent. C'est alors que la nation se vend à l'Église. Et alors l'Église et l'État sont de nouveau unis. Et la voilà qui arrive, vous voyez? C'est ça. Remarquez, très bien. Bon, celle-ci. Si quelqu'un fait partie d'une organisation, d'une association reconnue par notre gouvernement et qu'il peut dire ce qui lui commande son cœur, ou la vérité du dernier jour sera-t-il considéré comme l'une des prostituées? Voyons voir, si quelqu'un d'une organisation, d'une association, eh bien, voyez-vous, l'organisation, le gouvernement leur donne le droit de parole. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec son cœur. Vous voyez, maintenant, s'il est un vrai croyant, et qu'il est né de l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, il va sentir quelque chose le retenir. Vous voyez? Ça ne peut pas être aussi clair et qu'il ne le voit pas. Maintenant, je veux que vous, voyez-vous, vous devez vous souvenir de ceci, mon ami, c'est que Dieu jamais, à aucun moment, il n'a, à ce que je me souvienne, voyez? Regardez, c'est Jésus qui a été la note dominante de tout cela, puisqu'il était Dieu, Emmanuel, fait chair. Maintenant, regardez ce personnage, Jésus. Saviez-vous que lorsqu'il est venu sur Terre, il n'y a même pas eu, je pense, le dixième du monde qui l'a su qu'il était ici? Savez-vous que quand ce précurseur est venu, alors que toutes les montagnes et toutes ces choses devaient se produire, il n'y a pas eu le centième de la population d'Israël, je pense, qu'il n'ait jamais su? N'est-ce pas étrange? Voyons, il y avait des Juifs et tout, et des gens partout dans le monde. Là, souvenez-vous, Jésus est venu pour rendre témoignage comme sauveur du monde, pas vrai? Voyez, il y a eu des peuples et des peuples et des peuples et des races et des peuples qui n'ont absolument rien su du tout. C'est arrivé, c'est comme si tout le monde n'en savait rien su, mais pendant tout ce temps, c'est en train d'arriver dans le monde, voyez? Pourquoi ne leur a-t-il pas fait savoir? Il est venu. Et ce sont ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle qui l'ont reçu. Il n'aurait servi à rien de dire quoi que ce soit aux autres, parce qu'il n'aurait pas pu les racheter, parce qu'ils n'étaient même pas rachetables. Comment se fait-il alors que ces sacrificateurs étaient là? Alors il a dû en venir là, étant donné que les prédestinés s'étaient retrouvés au milieu d'eux, tout autour. Donc il a dû leur prêcher comme à un groupe. Et les grands érudits qui auraient dû le reconnaître, ils ont dit « Cet homme est Beelzebul. Nous ne permettrons pas que cet homme nous dirige. » Et tout, vous voyez, nous ne le permettrons pas, mais une petite prostituée qui avait la vie en elle, prédestinée à la vie éternelle et dont le nom se trouve immortellement dans la parole de Dieu ici, elle s'est approchée et quand la lumière a touché cette petite semence pour la première fois, tout de suite elle a su. Regardez, un vieux pêcheur est passé par là. Il était là à accomplir des signes et des prodiges et à différentes personnes les secrets de leur cœur et à se révéler. Et oh, il y avait des pharisiens qui étaient là et qui disaient, « Cet homme est Beelzebul. » Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée. Ils étaient tous là autour de lui. « Docteur Jones, pouvez-vous aller entendre cet homme? » Il semble savoir de quoi il parle. Il ne parle pas comme les autres hommes. J'irai l'entendre. Il s'est rendu là-bas. voyez, oui, Dieu ne pourrait jamais l'atteindre. Et voilà, il était là, il a dit, ils ont dit, maintenant, regardez là, voilà un homme qui arrive, voilà un de ses disciples, voilà un homme qui s'approche. Maintenant, ce gars-là, il s'appelle cet André. Vous en souvenez, vous vous souvenez des vieux pêcheurs ici? Ce sont eux, voilà Simon, son frère, vous voyez? Ce sont les enfants du vieux Jonas. Les voilà qui, ils amènent quelqu'un vers lui. Qui est-ce? Oui, on va voir ce qu'il va faire. C'est lui le prochain dans la ligne. Il s'approche. Il a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Cet homme est Belzébul, vous voyez? C'est un esprit qu'il a sur lui. C'est un curieux personnage, vous voyez? Ne vous arrêtez surtout pas pour écouter quoi que ce soit de semblable, vous voyez? Tenez-vous loin de ça. Je n'assisterai plus à aucune de ces réunions du tout. Aussitôt que ce sera terminé, nous filerons d'ici. Pourquoi? Or, voilà ce qu'il y a pensé, et pourtant, c'était censé être pour lui. Regardez ceux-là même vers qui il est venu. Ce sont eux qui l'ont crucifié, voyez? Mais là, il y avait une petite prostituée qui avait été rejetée par tout le monde. Ce n'est pas que j'approuve la prostitution, pas du tout, mais je vous montre la semence prédestinée, c'est tout. Regardez ce gars-là, ce vieux pêcheur. Il ne pouvait. La Bible dit qu'il n'avait pas d'instruction, pas vrai? Et ce n'est pas tout. Il était ignorant en plus. Maintenant, vrai ou faux? Si seulement nous pouvions devenir ignorants de beaucoup de ces choses que nous pensons savoir. Voyez, bien, voyez-vous, il était à la fois ignorant et sans instruction. Et alors, il est arrivé là, dans la présence du Seigneur Jésus, et il lui a dit qu'il était tout de suite, c'était réglé. Maintenant, cet autre homme, quel argument est-ce qu'il a proposé? Eh bien, regardez-lui, il a cru ça. Regardez qui c'est. Vous savez qui c'est? Celui-là, eh bien, cet homme n'a jamais... Voyons, c'est un pêcheur. Voyons, il ne sait pas son alphabet. Je lui ai acheté du poisson, il n'a même pas pu me signer un reçu. Vous voyez, c'est en plein genre. Voilà le genre de personne qui va écouter quelque chose comme cela. Merci, Seigneur. Amen. Voyons. Et regardez son papa, c'est un ignorant. Il ne les a même pas envoyés à l'école. Mais lui, il l'a envoyé à l'école. Il lui a enseigné ce qu'il a voulu. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas aller à l'école. J'espère que vous comprenez. Mais voilà bien le genre. Vous voyez que ce qu'on retrouve à la sortie, c'est le genre. Et c'est pour cette raison que ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Et vous savez quoi? Je dirais qu'il n'y a pas même le tiers de tous les Juifs du pays qui aient su qu'il était venu. Et puis un cinquième de ce tiers l'a écouté. Et puis un centième de ce cinquième l'a accepté. Et vous savez combien il y en avait? 12 qui étaient... Vous savez combien il y en avait? Il y en avait 12 qui étaient là à la croix de tout le groupe. Où étaient les autres? Vous voyez? Les 70 sont partis. Bon, pendant qu'il guérissait les malades et qu'il circulait tout bonnement sans rien dire de sa doctrine, il était simplement là à guérir les malades et tout. Et oh là là, ça, c'était l'Esprit de Dieu sur lui. Le croyez-vous? Il guérissait les malades. Merveilleux, c'est un grand rabbin. Dites donc, les frères, vous devriez tous l'inviter à votre église. Oh, vous parlez de puissance, ce gars-là, il peut vraiment guérir les malades. Vous devriez voir ça, il possède un don de guérison. Eh bien, naturellement, ils vont s'en faire des imitations. Les voilà qui arrivent parce que chaque groupe... Et donc, et puis tout à coup, un jour, il s'est assis. Oh, c'est sûr, Rabbi, nous irons avec toi, d'accord? Soyez-vous, allons-y. Bon, alors, il a envoyé 70 et ainsi de suite. Puis un jour, après qu'un grand miracle avait été accompli, il s'est assis, il a commencé à leur apporter la parole. Vous voyez, quand il commencera à sonner, très bien, il a commencé à leur apporter la parole, la vérité. Ils ont dit, ah, attends une minute, là, ça, je ne suis vraiment pas sûr. C'est contraire à leur doctrine. Ils ont dit, eh bien, je sais que nous avons quitté la synagogue et tout comme ça, mais peut-être qu'on a eu tort, les frères. On ferait mieux de retourner parce que cet homme-là, il parle par énigme. C'est assez curieux, personnage. Je n'arrive pas à comprendre ça, vous voyez. Qu'est-ce que c'était? La semence n'était pas prédestinée au départ. Et puis, à un moment donné, il a rassemblé son petit groupe de prédicateurs. Il a parlé aux prédicateurs. Ils ont dit, on ferait mieux de retourner, nous aussi, reprendre nos rangs dans l'organisation, reprendre nos papiers, vous voyez? Parce que ce gars-là, voyons, qui peut comprendre un homme semblable? Il a dit telle chose, là. Ah, les autres, ils ne s'avaient pas compris comme ça. Ils parlaient par énigme pour quelques-uns, mais pas pour les autres. Donc, ils sont partis. Alors, il s'est tourné. Il a regardé les 12 qui étaient là. Il a dit, « Voulez-vous aussi partir? » Voyez? Maintenant, regardez bien. Pierre a dit, « Sais-tu quoi? Je l'ai fréquenté, ce vieux bâtiment, pendant tout ce temps. Où donc est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Où est-ce que je pourrais aller? » Après avoir accompli quelque chose ici, je ne peux pas retourner à cette poubelle-là, alors qu'il y a toutes sortes de saletés du monde dedans. Tu vois? Où est-ce que j'irai? Je ne peux vraiment pas. Il a dit, alors d'accord, allez, viens. Bon, alors voilà. Vous voyez, comment était-ce à l'époque? 12 sur environ 2 millions et demi. Et le sauveur du monde sur des milliards. Et pourtant humble. Vous voyez, restez humble, c'est tout, regardez bien. Donc, alors qu'il y avait tous ces pharisiens, cette petite prostituée, elle s'est présentée là, elle a dit, « Dit-on, tu dois être prophète, or nous savons que le Messie doit venir, et quand il viendra, c'est ce qu'il fera. » Il a dit, « Je le suis. » Elle a dit, « Ça y est, et la voilà partie, essayez donc de l'arrêter, impossible. » Frère Branham, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui est l'homme dans Matthieu 22, 11, l'homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, qui ne portait pas d'habit de noces? Je sais que cet homme ne pouvait pas entrer au ciel sans avoir l'habit de noces. Il s'agissait d'un convive, je le sais, non pas de l'épouse. Oui, c'est exact. Ce serait un... Oui, lui, il s'est juste glissé à l'intérieur, vous voyez. Maintenant, regardez. Maintenant, on pourrait faire une prédication complète là-dessus. Là, il me reste 10 minutes pour prier pour la malade et compléter ceci. Et j'ai répondu à la moitié jusqu'ici, je pense. Remarquez, je vais vraiment me dépêcher, c'est sûr, après celle-ci. Vous voyez, voici ce qui s'est passé. Si vous connaissez les coutumes orientales, quand un époux envoie des invitations pour ses noces, il en envoie seulement un certain nombre. Et pour chaque personne à qui il y avait envoyé une invitation, il y avait quelqu'un à la porte qui était là pour lui mettre un vêtement, qu'il soit pauvre ou quoi que ce soit, qu'il soit riche ou pauvre, quoi que ce soit, tous devaient porter cet habit de noces. Quand il se tenait à la porte, il en revêtait ce qui cachait ce que son apparence extérieure avait été. Il est convié qu'il soit millionnaire ou qu'il soit mendiant, qu'il soit cultivateur, creuseur de fossés ou quoi que ce soit, ou plutocrate. Il est avec le vêtement sur lui maintenant. En effet, on lui met ce vêtement à la porte quand il entre par la porte. Maintenant, prenez dans Jean chapitre 10. Je crois que c'est là qu'il a dit, « Je suis la porte, voyez. Je suis la porte pour laquelle entrez, par laquelle vous entrez. » Donc, le voilà qui se tient à la porte. Il y a ici un homme qui doit mettre ce vêtement sur lui, le Saint-Esprit, lui donner le vêtement de la justice quand il entre. Or, cet homme-là, il est entré en passant par une organisation, par la fenêtre du fond, là, il s'était faufilé par un trou quelque part, il a réussi à entrer, il s'est assis à table. Et alors, quand l'époux arrive et qu'il regarde celui-là, c'était ceux-là, les drôles d'oiseaux. Maintenant, c'est lui, le drôle d'oiseau. Voyez? Qu'est-ce que tu fais ici, comme ça, sans le baptême du Saint-Esprit et tout ça? Comment tu fais pour entrer ici? Eh bien, il était entré autrement que par la porte. Et il était venu sans avoir l'invitation qui convenait, voyez? Il était entré en passant par un système d'éducation, voyez-vous? Ou quelque chose comme ça, il avait réussi à entrer. Et il leur a dit, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements, des grincements dedans. » Vous voyez? Il est allé dans la période de la tribulation, vous voyez? Il n'était pas entré par la porte. Donc, bien, question. Est-ce que Élie de Malachicat sera le même que l'Élie dont il est parlé dans Apocalypse 11, 3? Et est-ce que les autres témoins sont... Est-ce que les deux autres témoins sont différents, des individus différents? Oui, l'Élie de Malachie 4 ne sera pas l'Élie de Malachie 3. Nous avons vu ça hier soir. Et est-ce que l'autre témoin est différent, les deux? Oui, monsieur. Moïse et Élie, selon la révélation que nous en avons. Maintenant, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. 1 roi 19, frère Branham, je crois que le nombre de ceux qui n'avaient pas fléchi le genou, c'était, oui, c'est ça, 700 au lieu de, merci, c'est exact, c'était 700 au lieu de 7000, frère Branham, 7000 au lieu de 700, bon, vous avez vu ça? Vous savez réellement quand une personne arrive comme ceci pour prêcher, je voudrais vous demander quelque chose là, pour que vous compreniez. Quand l'Élie est arrivé du désert, il avait un message d'un pas décidé. Il est sorti du désert. Il est allé directement vers le roi. Il lui a dit, « Même la rosée ne tombera pas du ciel, sinon ma parole. » C'était là les paroles qu'il avait. Et d'un pas décidé, il est reparti aussitôt. Il n'a rien dit à personne, voyez. Quand il y avait un autre message, il venait tout de suite et il prononçait ce message. Il faisait aussitôt demi-tour. Il retournait dans le désert, voyez. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Maintenant, l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Alors, je suis tellement Voyez-vous, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation et quelque chose d'autre, et voyez ce que ça fait. Voyez, oh, je m'attends à ce que l'Église soit assez spirituelle pour comprendre. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins, Moïse et Élie, là-bas? Non. Non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'Église des nations. Ceux que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple. Vous voyez, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le message de l'heure. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Après que l'enlèvement aura lieu. Or, il y aura une période de chevauchement entre les deux, naturellement. En passant d'un message à l'autre, il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations et ainsi de suite. Très bien. Après que l'enlèvement aura lieu, est-ce que quelqu'un de l'Église pourrait encore être sauvé à la fin, quelqu'un qui n'aurait pas été pris dans l'enlèvement? Non. Non, non. Parce que le sang n'est plus là, vous voyez, il n'y aura plus d'intercession. L'âge des nations est terminé. Personne ne sera sauvé après l'enlèvement ou personne de l'Église. Non, non. L'Église, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, cela ne se fera pas. Vous voyez, pas après le départ de l'Église. Frère Branham, j'ai remarqué que vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans le message du premier sceau. Ce que je comprends dans Daniel, sur la bande de Daniel, c'est que lorsque l'Évangile retournera aux Juifs, les 70 semaines commenceront. Y a-t-il une semaine, 7 ans qui reste pour les Juifs, ou est-ce qu'il reste encore seulement la moitié d'une semaine, 3 ans et demi qui leur reste? Seulement la moitié d'une semaine. Jésus a prophétisé la première moitié de la semaine, telle que cela avait été prédit. Il ne leur reste plus que la moitié d'une semaine. Frère Branham, comment vous n'avez pas prié pour les malades pendant la semaine, pouvez-vous? C'est simplement une demande à ce sujet. Frère Branham, pouvez-vous me voir après la réunion? C'est une demande, vous voyez, là. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans? Et relâché pour le combat de combat d'Apocalypse 28. Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e sceau? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la Nouvelle Terre? Eh bien, celle-là est longue et je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes, vous voyez. Donc, première chose, vous voulez, maintenant peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer, je vais faire de mon mieux. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci, vous voyez, très bien, une fois la période de la tribulation terminée. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un, c'est ce 1000 ans, et l'autre, c'est à la fin des 1000 ans, dont vous avez parlé dans le 4e sceau. Est-ce que ceux de Gog et est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la Nouvelle Terre? Satan a été relâché de sa prison. Il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre du feu et du souffle du ciel et ils ont été consumés. Vous voyez, 2 combats distincts. Questions. Au sujet des 68 millions qui ont été tués par l'Église catholique romaine, à quelle époque de l'histoire cela s'est-il produit? Et pendant combien de temps cela a-t-il duré? Prenez la glorieuse réforme de Schumacher. Je pense bien que certains des érudits doivent avoir ça, et c'est l'histoire de l'Église. Je ne me souviens plus à laquelle page c'était, mais ça s'est déroulé à partir de l'époque de la chose a été suscitée ou apportée à l'Église par Saint Augustin d'Hippone d'Afrique. C'était en l'an 354. après Jésus-Christ, et ça a duré jusqu'en 1850, jusqu'au massacre de l'Irlande. Vous voyez, donc cette période a duré de 33 après Jésus-Christ ou de 354 après Jésus-Christ. Je vais les dire comme il faut. Là, voyez-vous, de 354 après Jésus-Christ à 1850 après Jésus-Christ, 1850, selon l'histoire, 68 millions de protestants ont été mis à mort. C'est ce que rapporte le martyrologue romain parce qu'il était en désaccord avec le pape de Rome. Ça, c'est de l'histoire. Si vous vouliez dire que c'est faux, eh bien, dans ce cas, peut-être que George Washington n'a pas été ici, ni Lincoln. Vous savez, aucun de nous n'a vécu à cette époque pour le voir. Mais je crois qu'ils ont été ici de toute façon. Je vois des signes qui montrent qu'ils ont été ici. Frère Branham, au chapitre 19 et au verset 18, ben, je me suis réservé 7000 hommes d'Israël, 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont pas fléchi devant les Baals et toute bouche, ou fléchi devant Baal et tous qui ne l'ont pas baisé, dont la bouche ne l'a pas baisé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'il en est des 700? C'était 7000, voyez. Et pour ce qui est de baiser Baal, vous devez bien savoir combien ici ont déjà été catholiques. Bien sûr, voyez, vous baisez des statues, voyez. Et souvenez-vous, à l'époque de Babylone et de Nebuchadnezzar, quand le royaume des nations a été inauguré, voyez, quand le royaume des nations a été inauguré, ça a commencé par l'adoration d'un homme. Nebuchadnezzar a érigé une statue à un homme. Et si vous êtes spirituel maintenant, écoutez bien cette révélation. Cet esprit, cet homme auquel il a fait une révélation ou auquel il a fait une statue par sa révélation, c'était Daniel, un homme religieux qu'on adorerait. Oui, voyez-vous? En effet, il lui a donné le nom de Belshazzar, n'est-ce pas? Ou Belshazzar, ce qui était le nom de son Dieu. Il a fait une statue de ce Dieu, et c'était la statue de Daniel. Et Daniel a refusé de se prosterner devant sa propre statue, vous voyez? Et nous y voilà encore, vous voyez? Maintenant, regardez bien. Le royaume des nations a été inauguré à l'époque de Babylone par le roi Nebuchadnezzar, un roi qui venait des nations et qui a uni l'Église et l'État en prenant une statue ou la statue d'un homme saint et en forçant les gens à adorer celle-ci. Le royaume des nations se termine dans les pieds avec l'écriture sur la muraille par une puissance politique qui unit l'Église et l'État pour forcer les gens à baiser des statues de nouveau. Vous voyez la même chose? La statue d'un homme saint, bien sûr. Abraham, quand cet enlèvement aura lieu, quand l'enlèvement aura lieu, est-ce que les jeunes enfants qui ne savent pas distinguer le bien et le mal partiront dans l'enlèvement? Si leurs noms sont dans le livre, oui. C'est juste, vous voyez, très bien. Frère Branham, hier soir, vous avez dit qu'il y avait eu 700 personnes de sauvées à être sauvées par la prédication d'Élie. Vous vouliez dire 7000? Oui, c'est ça. Pardonnez-moi, je vous en prie, vous voyez, c'est vrai, voyez-vous? Frère Branham, est-ce que vous allez interpréter après que vous aurez ouvert? Frère Branham, est-ce que la DSPE... dispensation, excusez-moi, est-ce que la dispensation, ce n'est pas vous là, c'est moi, vous voyez, est-ce que la dispensation de la grâce serait terminée après que vous aurez ouvert le septième sceau? J'espère que non. Non? Non. Les amis, ne mettez pas ça dans la tête, vous voyez, continuez simplement, arrachez vos patates et allez à l'église et continuez. Si c'est pour demain matin qu'on vous trouve en train de faire exactement ce que vous êtes censé faire, ne commencez pas. Vous voyez, quand vous faites ça, vous détournez la chose même du but recherché. Vous formez des petites opinions particulières et vous formez vos propres idées sur la chose. Ne prenez pas votre propre idée. Simplement, quand vous êtes assis à écouter des choses comme ça, dites « Merci Seigneur, je vais simplement marcher un peu plus près de toi, vous voyez. Je vais marcher, ne quittez pas votre emploi et dire « Je vais tout vendre, un homme est arrivé en vitesse l'autre jour, il était de la Caroline du Nord, c'était juste avant que nous partions. Il a dit, gloire à Dieu, pouvez-vous me dire où se trouve un certain grand tel? » J'ai dit, non. Oh oui, monsieur, il a dit, cet homme-là, il a dit, cet homme est le président de la mission audio. La quoi? La mission audio. Je ne comprends pas. Oui, il a dit, cet homme est le président. J'ai dit, comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Il a dit, Branham, je crois, quelque chose comme ça, Brown ou Branham. J'ai dit, eh bien, mon nom est Branham. Il a dit, êtes-vous le président de la mission audio? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, eh bien, où est le millénium? Je ne sais pas. Il a dit, mais vous êtes... vous voulez dire que c'est en train de se passer ici même et que vous ne le savez pas? J'ai dit, non, monsieur, je ne sais pas. Il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, des amis à moi sont venus me le dire. Il a dit, j'ai quitté mon emploi. Il avait encore ses vêtements de travail. Il a dit, frère, je veux le millénium. J'ai dit, eh bien... Je crois que vous avez les idées un tantinet embrouillées. Vous ne trouvez pas, frère. Et à peu près à ce moment-là, quelqu'un est arrivé en taxi. Il a dit, un instant. Une petite dame est arrivée en disant, maintenant, vous allez prier pour mon mari. J'ai dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il a? Et il a dit, eh bien, il paraît qu'il faut attendre d'avoir un entretien, ce qui prend un mois, vous voyez, avant de pouvoir recevoir de la prière. J'ai dit, quoi? Elle a dit, oui, monsieur. Elle a dit, mais je suis désespéré. Il faut que vous priez pour mon mari. J'ai dit, bien sûr, où est-il? Amenez-le. Cet homme qui était là, il suivait tout ça. Il a dit, est-ce que vous priez aussi pour les malades? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, avez-vous dit que votre nom, c'était Branham? J'ai dit, vous ne savez rien du millénium? J'ai dit, eh bien, non, je ne sais pas. J'ai dit, je ne comprends pas seulement ce qu'il y a dans la Bible. Il a dit, non, c'est tout de suite, il y a des gens qui sont venus de partout. J'ai dit, ouais. Il a dit, à Jeffersonville, en Indiana, juste sous le pont. Monsieur, vraiment, là, je suis dépassé. J'ai dit, je ne sais rien à ce sujet. J'ai dit, entrons donc nous asseoir. Peut-être que nous pourrions en discuter ensemble. C'est ce que nous avons fait, vous voyez? Voyez, mes amis, ne désirez jamais avoir un ministère. Vous savez ce que je veux dire? Voyez, vous serez plus heureux là où vous êtes. Voyez, continuez simplement votre chemin. Après l'enlèvement de l'épouse, quand est-ce que l'Église qui a dû traverser la période de la tribulation comparaîtra en jugement? Elle ne comparaît pas en jugement. Est-ce avant ou après le millénium? Pour l'Église, oh, excusez-moi, qui que ce soit la personne qui a écrit ça. Quand est-ce que l'Église, après l'enlèvement de l'épouse, quand l'Église qui a dû traverser la période de la tribulation comparera-t-elle en jugement? Est-ce que après ou avant? Après, les autres morts ne reviennent point à la vie avant 1000 ans. C'est ceux qui ne sont pas partis de l'épouse, vous voyez? Vous avez dit bien des fois que le communiste a été suscité par Dieu pour accomplir son dessein comme le roi Nebuchadnezzar. Or, où doit-on situer le communiste quand il est question, quand il va finalement faire? Comment cela se termine-t-il? De nombreux érudits croient que dans le royaume du Nord, Gog et Magog, dont il est parlé dans les Écritures, descendent attaquer Israël dans... Je n'arrive pas à déchiffrer ça comme il faut. Oui, oui. Je crois d'après, certains des enregistrements disent, vous avez dit qu'il finirait par lancer une... que le communisme finirait par détruire le catholicisme ou le Vatican par une explosion. Est-ce exact? Oui, c'est dans Apocalypse 16 que vous allez trouver ça, et dans l'Apocalypse 18, 8 et 12. Si la personne est ici, elle veut prendre ce bout de papier avec ça, vous pourrez tout de suite le vérifier, oui. Voyez, malheur, la grande ville, en une seule heure, elle a été détruite. Voyez, les marchands et tout, qui lui apportaient leurs marchandises, c'est bien ce qui arrivera, c'est exact. Et cessez de... Oubliez donc le communisme, voyez. Tout ce que c'est une bande de gens qui ne sont rien d'autre que des barbares qui sont impies. C'est un système, je vais vous montrer quelque chose, juste pour vous montrer comme c'est simple. Mais il n'y a qu'un pour cent de toute la Russie qui est communiste. Ils ont besoin d'un messager, voyez? 1%, alors il y a encore 99% qui sont du côté du christianisme. 1%. Mais comment 1% peut-il avoir le dessus sur 99%? Voilà qui devrait vous donner tout de suite l'explication. Si Dieu ne l'avait pas permis, eh bien, voyons, il y aurait longtemps qu'il aurait été expulsé, voyez? Bien sûr, frère Branham, vous avez dit que Rome prendrait en main le gouvernement des Juifs au cours des derniers 3 ans et demi. Est-ce que ce sera le premier 3 ans et demi de la tribulation? Ou si ce sera le dernier 3 ans et demi, juste, ce sera le dernier 3 ans et demi. C'est ça. Pas le premier, parce qu'il est déjà passé. Il m'en reste encore une après celle-ci. Mon cher frère, est-ce que l'Élie de Malachie 4:5 ira au désert comme un roi 17 nous dit que l'autre Élie l'a fait? Eh bien, je ne dirais pas précisément qu'il irait au désert. Mais il sera comme ceci, vous voyez, il était Élisée et Élie, avez-vous remarqué? La plupart de ces hommes-là, ce sont des hommes qui s'isolent. Ils s'isolent des gens. Ils sont très singuliers, ils ne fréquentent pas trop les gens. Vous remarquerez comme Élisée était, et Élie, et Jean-Baptiste, et la nature de cet esprit-là, vous voyez? Et je crois que cet homme aimera les régions sauvages et peut-être rester dans les régions sauvages. Mais bon, de là à dire qu'il sera un ermite et qu'il vivra dans le désert, ça, je ne sais pas. Parfois, il le faisait. Élisée ne l'a pas fait, mais Élie, oui. Et puis Jean, il vivait dans le désert. Et ses autres prophètes, c'est difficile à dire. Quand ils sortiront de la Judée là-bas, je ne sais pas où ils demeureront, mais peut-être qu'ils camperont quelque part sur la colline ou qu'ils vont faire au jour de leur prophétie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais vous, ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Est-ce qu'ils seront un... La question qu'ils cherchent à poser, est-ce que ce seront des gens qui habitent seulement les régions sauvages? Eh bien, il leur faudrait aller dans le nord de la Colombie-Britannique pour trouver une étendue sauvage assez vaste pour y habiter maintenant quelque part, vous voyez? Alors, ce sera quelqu'un... Tous les arbres ont été abattus dans les bois, voyez? Il ne reste plus beaucoup de régions sauvages, voyez? Alors, la seule chose, il pourrait aimer les régions sauvages. Vous voyez, peut-être demeurer beaucoup dans les régions sauvages. Vous remarquez la nature qu'ils ont, c'est de ne pas faire de compromis, voyez-vous. Vous le reconnaîtrez quand ce sera là, voyez. Vous le verrez, vous êtes bien éveillé. Maintenant, voici une que je ne sais pas comment l'aborder. Bon, j'en sais une autre avant celle-là. Ensuite, je vais demander qu'on arrête l'enregistrement pendant un instant. Si Dieu a une seule personnalité, pourquoi ou comment pouvait-il se parler à lui-même sur la montagne de la Transfiguration? Eh bien, je viens de l'expliquer, vous voyez. J'aimerais vous demander ceci. Quand Jésus priait le Père, vous voyez, je crois que vous avez le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Pourriez-vous vous lever dans un instant? Vous prétendez avoir le baptême du Saint-Esprit? Moi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne prétends pas que je possède moi-même les puissances de dévoiler ces mystères. Je ne possède pas la puissance de guérir les malades. C'est Dieu. Je crois que vous êtes prédicateur, si je ne me trompe pas. Vous venez de l'Arkansas. D'accord, bon. Et en vous, vous avez c'est de prêcher l'Évangile. Normalement, vous avez été élevé sur une ferme et quelque part autour. Vous ne connaissez vraiment rien de ces choses. Mais quelque chose est entré en vous. Vous pouvez, pour vous faire prêcher l'Évangile, vous ne prenez pas du tout que cela vienne de vous. C'est une autre personne qui s'appelle le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce que ce Saint-Esprit, il habite à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous entretenez avec lui? Vous lui parlez? Vous voulez prier? Très bien, c'est tout ce que je voulais. Merci beaucoup. Voyez maintenant, vous saisissez. Je vais vous en demander une. Comment se fait-il que quand Jésus, dans Jean chapitre 3, il a dit, « Quand le Fils de l'homme sera, qui est maintenant dans le ciel, voyez, est maintenant dans le ciel, reviendra sur la terre, voyez, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel, et il était là devant la personne en train de lui parler. » Maintenant, donnez-moi donc la réponse à celle-là. Jésus et le Père, c'était une seule et même personne. Exactement comme le Saint-Esprit en moi. Vous me regardez, moi, en train de prêcher, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui peux prononcer une parole à même de produire, comme vous le savez, un animal, être assis là à le regarder, tuer l'animal et le manger. Ça, c'est une puissance créatrice. Cela ne vient pas de l'être humain. Ce n'est pas moi qui ai pu prendre un petit garçon ici étendu, les médecins qui déclaraient qu'il devait rester étendu sur le dos, souffrant du cœur ce soir, et dire « Ainsi dit William Branham ». Non, « Ainsi dit le Seigneur », c'est terminé. Il l'a ramené chez le médecin le lendemain et tout est parti. Un enfant qui avait la leucémie au point qu'elle avait les yeux boursouflés et qu'elle était toute jaune et son estomac, si bien qu'ils l'ont amené à l'hôpital pour lui donner du sang et tout pour réussir à la transporter jusqu'ici. Et au bout de 5 minutes, elle réclamait un hamburger, l'a ramené chez le médecin et le lendemain, il ne pouvait même pas en trouver une trace. Ça, c'est ainsi dit William Branham. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourtant, il est un individu différent de moi, mais son seul moyen de s'exprimer, c'est à travers moi. Vous voyez? C'est comme ça qu'était Jésus et le Père. Jésus a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Or, le Fils de l'homme montera du ciel et il est maintenant dans le ciel. Vous voyez? Qu'est-ce que c'était? Il était omniprésent parce qu'il était Dieu. Maintenant, pour cet autre, je voudrais dire ces mots. Expliquez de quoi vous parlez. Merci, Dieu notre Père. Nous te remercions pour l'esprit de ce que tu es ici. Et il nous est dit, Père, qu'une fois l'ennemi arrivait, alors l'esprit est descendu sur un homme et a prophétisé par lui Il lui a dit, « La chose a été réglée, car ils ont su comment aller vaincre l'ennemi et ont trouvé l'ennemi. Et je te remercie, Père, de ce que tu demeures le même Dieu que tu as toujours été. Tu es toujours exactement le même. Nous nous changeons et les âges changent et les temps changent et les gens, mais toi, tu ne changes jamais. Tes systèmes sont les mêmes, ta grâce est la même, tes œuvres sont les mêmes parce qu'elles sont merveilleuses et qu'elles dépassent tout entendement humain. Alors nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tes secrets soient cachés dans le cœur de tes serviteurs. Et nous sommes tellement heureux de ceci, Seigneur, et puissions-nous aller de l'avant comme des lumières qui brillent pour de lieu en lieu, essayant dans l'amour d'en faire entrer d'autres, que nous puissions pêcher à la scène dans chaque petit coin, jeter nos filets pour bien nous assurer d'attraper chacun des poissons qui t'appartiennent. Et alors l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. Nous attendons ce moment-là par le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien y a-t-il de malades ici? Faites voir votre main. On dirait qu'il y a à peu près, levez encore la main, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 47 à peu près, 47, très bien. Il est 11h30, nous pouvons prier pour les malades tout de suite, réserver ce soir pour, est-ce que vous aimeriez faire comme ça? Je crois que tout de suite, le moment se prêterait bien à cela. Je vais vous dire pourquoi. Le Saint-Esprit est ici même en train d'oindre. Or, comme nous sommes élevés dans l'Esprit maintenant, voyez-vous, et que vous voyez que quelque chose, vous savez que quelque chose est présent, voyez-vous. Et si vous êtes possible de croire un jour, c'est maintenant même que vous devriez le croire. Voyez, c'est le moment ou jamais pour vous de croire. Maintenant, nous voulons que vous avanciez tout doucement et que ceux qui sont du côté de cette année-là, qui ont levé la main, sortent dans l'allée et qu'ils retournent de ce côté-ci et nous prendrons un côté après l'autre. Il n'y en a que 45, 47. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je vais demander à Frère Neville de bien vouloir venir avec moi et nous allons prier pour eux. D'abord, ceux qui vont s'avancer dans l'allée, maintenant, levez-vous donc juste un instant pour que nous prions pour vous ici. Ensuite, nous imposerons les mains à chacun. Bon, c'est ça, tous ceux qui vont venir dans la ligne de prière, voyez? Ceux qui vont venir dans la ligne de prière, voyez? Bon, voyez-vous, pour gagner du temps, pour être bien sûr de le faire, nous allons prier pour vous maintenant. Regardez, mes amis. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer. Jésus-Christ a dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, regardez bien. Il n'a pas dit s'ils prient pour eux. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si Dieu peut prendre un cas fatal de leucémie, une petite fille qui ne peut pas avoir elle-même la foi et lui redonner une santé parfaite, s'il peut prendre l'autre cas, ce petit garçon, et le guérir au point que les médecins ne peuvent même plus trouver de rhumatisme articulaire aigu dans son sang ni rien, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Or, ces tout petits enfants, ils ne comprennent pas ce que c'est que la prière, mais simplement de leur avoir imposé les mains, et voilà, c'était réglé. Nous, nous sommes à même de comprendre. Maintenant, pendant que vous êtes debout, vous priez maintenant, Père Céleste, par ta glorieuse présence qui est ici, le glorieux Saint-Esprit, celui dont nous avons la photo, celui dont nous lisons dans la Bible. Il est présent ici, même maintenant. Il se révèle à travers la chair humaine. Comme nous l'avons vu, il n'a pas failli une seule fois au fil des années. Il a pu révéler les pensées même du cœur humain, révéler le péché qu'ils ont commis, leur dire exactement ce qui s'est passé et ce qui arrivera, sans une seule fois faillir. Alors nous savons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël demeure toujours Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, par son esprit qui descend du ciel sous le sang qui a été versé au calvaire, il descend au milieu des gens pour se manifester dans la chair humaine, juste avant que le monde soit brûlé. Le glorieux Saint-Esprit représenté dans la chair humaine, ces gens précieux qui ont accepté l'expiation du sang. Alors, le Saint-Esprit prend sa place dans leur être, Dieu représenté dans la chair humaine. Par conséquent, il ne s'agirait pas de la chair humaine que pour ce qui est d'accomplir les gestes, comme le baptême ou autre, avec la commission que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En imposant les mains aux malades, le Saint-Esprit s'occuperait de les guérir, à condition qu'ils croient. Maintenant, Père, nous savons que ces choses sont vraies. Ces gens qui sont debout, quand ils vont passer, des mains seront posées sur eux par des prédicateurs qui ont reçu ce Saint-Esprit, et ils sont prêts, Seigneur, à imposer les mains aux malades. Et nous savons, Père, qu'il suffit seulement à ces gens de croire, exactement comme chaque parole que tu as promise doit arriver, ainsi en est-il de... Et cela ne peut pas arriver sans la foi, car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Nous ne pouvons tout simplement pas. Et maintenant, en croyant avec foi, avec cette promesse devant nous, avec les sceaux de la Bible qui nous ont été ouverts, montrant que Dieu tient sa parole, puissent ces gens précieux qui sont malades, Seigneur, et j'ai compassion d'eux, moi qui suis un être humain dans un corps mortel comme le leur, et maintenant, le même Saint-Esprit qui demeure en nous, Seigneur, il demeure en eux, et nous avons compassion les uns des autres, et sachant que la nouvelle alliance dans le nouveau sang, si l'ancienne offrait la guérison, combien plus cette nouvelle et meilleure le fera-t-elle? Père, qu'il en soit ainsi, que ces gens ne failliront pas, mais qu'ils recevront leur guérison alors qu'ils passeront et que les mains de tes serviteurs seront posées sur eux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons, ceux de ce côté-ci vont s'asseoir pendant que ceux de ce côté-ci vont passer. Ensuite, ceux-ci retourneront et ceux de l'autre côté. Maintenant, quelques-uns d'entre vous, les frères, si vous voulez vous lever, je crois que vous êtes tous des prédicateurs de ce côté-ci. Vous qui êtes de ce côté-ci, où est docteur Frère Ned? Est-ce que tu dois passer dans la ligne de prière, Frère Ned? Oui, je suis ici. Aussitôt qu'on a prié pour toi, viens tout de suite te mettre dans la ligne de prière. Maintenant que ceux qui sont de ce côté-ci s'assoient un instant, ensuite, nous allons continuer avec ceux du centre et nous les ferons retourner de ce côté-ci. Ensuite, nous prendrons ceux qui sont sur ce côté-ci et nous les ferons retourner par ici. Je vais demander à Frère Teddy. Où est-il? Très bien. Je voudrais que tu joues. Le grand médecin est proche maintenant et la personne qui est au piano, je ne sais pas où elle est, si vous voulez bien l'accompagner. Écoutez, vous vous souvenez de la fois où on jouait cela et qu'un petit garçon avait été amené sur l'estrade? La jeune fille Amish jouait, le grand médecin est proche maintenant. Elle avait de longs cheveux foncés ou blonds plutôt. Une jeune fille Mennonite ou Amish, l'un ou l'autre enroulé sur sa tête et le Saint-Esprit a touché ce petit garçon simplement par l'imposition des mains. Il était infirme, c'était ses pieds. D'un bond, il s'est dégagé de mes bras, il s'est mis à courir sur l'estrade. Sa mère s'est levée, elle s'est évanouie, une Mennonite, je crois, au départ. Et l'Esprit de Dieu a touché cette jeune fille qui était Mennonite ou Amish ou quelque chose. Son papa et les autres étaient assis là avec leur vêtement sur le dos de Mennonite ou quelque chose. Et elle s'est levée d'un bond du piano avec les mains en l'air et sa jolie chevelure a glissé sur ses épaules. Elle avait l'air d'un ange. Elle s'est mise à chanter par l'Esprit et pendant qu'elle le faisait, le piano continue à jouer. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Tout le monde était là, des milliers à regarder les touches qui descendaient et remontaient. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Des gens se sont levés de leur fauteuil roulant, des brancards, des civières sont repartis en marchant. Ce même Seigneur Jésus est ici ce matin, exactement le même qu'il était cette fois-là. Maintenant, croyez maintenant. Simplement, joue ce cantique, si tu le veux bien, le grand médecin. Maintenant que tout le monde prie, qu'il traverse la salle sans s'arrêter, s'il passe dans cette direction, s'il retourne à votre siège ou à l'endroit où vous allez alors que vous retournez, est-ce que c'est dégagé là-bas? Très bien. Alors, vous pourrez retourner tout droit à votre siège. Maintenant, écoutez, pendant qu'on prie pour ceux-là, vous priez pour eux. Ensuite, quand on priera pour vous, eux, ils prieront pour vous. Maintenant, vous, les prédicateurs de ce côté-ci, levez-vous. Et je voudrais que vous imposiez les mains à ces gens alors qu'ils passeront. Maintenant, tout le monde, la tête inclinée et gardez la tête inclinée. Continuez à prier. Et quand vous passerez, alors imposez. On vous imposera les mains. Rappelez-vous, c'est une promesse du Dieu qui révèle les secrets de son livre, les secrets du cœur humain. Il est le Dieu qui va confirmer cela si vous voulez le croire. Voyez, maintenant que tout le monde soit en prière. Maintenant, vous, les prédicateurs, venez vous placer ici si vous le voulez bien. Très bien. Courbons la tête. Maintenant, Seigneur Jésus, alors que ces gens viendront, que la puissance du Dieu Tout-Puissant vivifie leur foi à l'instant même où ils passeront tous au nom de Jésus. Bon, très bien, qu'on commence la ligne. Je demande à chacun d'imposer leurs mains, vous, les prédicateurs, alors qu'ils passeront. Au nom du Seigneur Jésus, j'impose mes mains. Au nom du Seigneur Jésus, mon frère. Au nom du Seigneur Jésus, ô Dieu, accorde-le à ma sœur Rosella, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il est un. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Jésus-Christ. Thank you. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous déplacer vers l'arrière? Ceux qui sont debout dans cette allée-là, pourriez-vous dégager l'allée et vous diriger vers l'arrière? Continuez vers l'arrière, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont dans l'allée du centre aussi, pouvez-vous circuler? Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère Mitchell. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, mon frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez la guérison, mon frère. Recevez votre guérison de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez la guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez la guérison, sœur. Recevez la guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, ma sœur. Recevez la guérison, frère. Recevez votre guérison, sœur. Recevez votre guérison, sœur. Recevez votre guérison, frère. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison, frère. Recevez votre guérison, sœur. Recevez votre guérison de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez la guérison, sœur. de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison, mon frère de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la guérison, mon frère de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la guérison, ma sœur. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Est-ce que quelqu'un d'autre veut passer en ligne de prière? Veuillez vous mettre en ligne. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer en ligne de prière, veuillez vous mettre en ligne. Recevez votre guérison, mon frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur Wood, de la main de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison, sœur Robertson, de la main de Jésus-Christ. Recevez la guérison, mon frère, de la main de Jésus-Christ. Recevez la guérison, sœur, de la main de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison, sœur. Reçois ta guérison, mon garçon, de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, sœur, de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère, de Jésus-Christ. Frère Wirt, recevez votre guérison, frère, de Jésus-Christ. Sœur, recevez votre guérison de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, frère. Frère, par le nom de Jésus-Christ, recevez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison, mon frère. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison, sœur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est complet, ceux qui voulaient accomplir pour eux, là? Que la main du Seigneur Jésus vous accorde, frère Veil. Votre demande pour cet être qui vous est cher au nom de Jésus. Billy Paul, toi qui as distribué tant de cartes de prière, maintenant reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le grand médecin est proche maintenant. Compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Oh, entendez la voix de Jésus. Tous en cœur, le nom le plus doux du chant d'un séraphin. Le plus doux sur la bouche d'un mortel. Le chant le plus doux jamais chanté. Ô Dieu, sur ce charmant couple qui a mis au monde un des eussent-ils recevoir ce qu'ils demandent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, que la personne à laquelle notre sœur pense en ce moment, que la puissance de Dieu s'occupe de sa demande, qu'elle soit délivrée. Accorde-le, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, accorde à cet homme sa demande. Je prie pour lui, Seigneur, par ma prière. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Je crois que si chaque personne qui est passée ici ce matin, sous cette onction formidable, je crois que si vous, maintenant, ne cherchez pas quelque chose de grandiose, rappelez-vous cette chose toute simple de croire ce qu'il a promis. Maintenant, disons-le tous ensemble. Nous ne cherchons pas quelque chose de grand, mais au nom de Jésus, nous recevons sa promesse. C'est réglé. Voilà qui règle le cas. Amen. Que Dieu vous bénisse.